Salut tout le monde, bienvenue sur Le Trichot, épisode 19. Alors, après une petite pause vacances qui nous a fait sûrement un petit peu de bien pour certains, et puis pour d'autres, ça les a peut-être un petit peu stressés de pas être à l'antenne et de pas pouvoir commenter en direct l'actualité. Mais en tout cas, on est de retour. Et on est de retour pour ce numéro avec Jeanne Leher. Salut Jeanne, comment ça va?
Bonjour, bah ça va très bien. Je suis en direct de Font-Romeu à la montagne. L'air frais va, j'espère, me permettre d'être forte pour la suite de la saison.
Et on est avec Alexandre de Trims. Et toi, t'es à la montagne, mon petit Alex?
Non, et salut à tous. Puis vu que vous en avez rien à foutre de ma vie privée, alors je voulais dire que j'étais en train de partir en vrille avec ce manque de Trichot. En gros, mon drone a décidé de divorcer avec moi. Il est parti sur un toit. Je sais pas pourquoi. Alors, je me suis allé me consoler à Saint-Tropez. Puis, en revenant à Montréal, ben, je savais plus quoi faire de ma vie. Alors, je me suis mis au modélisme. Enfin, au final, j'ai aussi assuré ma présence à l'écran au JO de Paris. Je resterai mystérieux, mais je suis très heureux. Et puis, je me suis acheté les chaussures de Eden. Et non, c'est une connerie parce que elles sont toujours pas sorties. Voilà. Voilà, je suis toujours aussi détestable et je suis content.
Si vous avez manqué deux semaines d'actu avec Alex, bah voilà, vous avez eu un résumé et je pense qu'on vient de perdre, une centaine d'auditeurs là d'un coup, juste en ce que tu nous racontes ta life. Allez, on passe tout de suite à la partie actualité. Les actus, c'est tout de suite. Les actualités donc de cette semaine, et on commence tout de suite avec Iron Man qui semble un petit peu dans la tournante, pas mal d'articles qui sont sortis. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus, mon cher Alex?
Ouais, ça fait déjà plusieurs semaines en fait que Iron Man est une sorte de dérive totale. Le bateau est en train de couler. Dans les mauvaises nouvelles, on a appris un truc, moi qui me... en québécois, flabberglast. Je sais même pas ce que ça veut dire en fait, mais je sais que ça veut dire que t'es vraiment surpris. En tout cas, pour Kona, ils ont annoncé, en tout cas, il se sait qu'il y aurait juste 1300 femmes inscrites et que même pour Nice, en fait, les chiffres sont pas du tout là. On serait loin de la course complètement complète.
On serait à 1900 triathlètes inscrits au 13 juillet. Il restait quelques courses, dont Lake Placid, qui était la dernière, qui se déroulait le 23 juillet. Mais pour le moment, les start lists n'ont pas été mises à jour.
Ouais, on apprend des affaires un peu folles, là, comme il y a une course au Kazakhstan et où il y avait à peine 23 femmes inscrites et il y avait 25 spots. En tout cas, il y a plein de trucs vraiment étranges. Les championnats du monde, c'est des courses qui coûtent très très cher à produire et si c'est pas rempli, je pense qu'il peut même y avoir une perte pour Ironman et ça va leur faire mal parce que ces championnats du monde, c'est le moteur qui devait les relancer dans leur phase de récupération post-Covid, parce que il y a des pertes qui se sont accumulées, il y a du manque à gagner, puis là faut revenir. Là-dessus, en tout cas, ça commence à cacher. En tout cas, le mal, il commence à se voir de plus en plus. En gros, pour résumer, pourquoi ça va si mal pour Ironman. Alors, j'ai fait une sorte de liste. Peut-être que je me plante, mais je pense que c'est ça. Un, il y a l'essoufflement d'une communauté à qui on a déjà beaucoup demandé, surtout quand on parle de bénévoles, etc. C'est eux qui ont fait le succès. En ce moment, on est dans une conjoncture où les bénévoles, en tout cas, ça n'existe plus parce que le monde, il va être payé, puis c'est comme ça. Deux, il y a la perte de prestige parce qu'il y a une sorte de banalisation avec la multiplication des événements et tout. Je sais que Julien, t'es peut-être pas totalement en accord avec moi là-dessus, mais moi, c'est ce que j'observe en Amérique du Nord, où il y avait très peu de courses. Chaque nouvelle course était des événements. Et finalement, maintenant, il y en a tellement qu'ils sont obligés de les éliminer. Trois, il y a un bassin d'athlètes qui a du mal à se renouveler. Les athlètes qui devaient faire des Ironman, ils l'ont fait. Puis, ça les tente plus finalement de revenir. En tout cas, il y a moins le côté... l'importance de dire je suis un Ironman pour avoir pour devenir quelqu'un dans la société, quelque chose qui était vrai il y a pas si longtemps. Et d'ailleurs en ce moment on voit une sorte de relance avec des vidéos YouTube avec des influenceurs qui essayent de vendre l'idée de d'Ironman. Ça a l'air d'être leur meilleure carte pour essayer d'attirer des nouveaux participants. 4, c'est la concurrence. D'autres sports d'endurance, gravel, trail, il y en a plein d'alternatives qui sont moins chères, moins exigeantes sur le physique, pour la famille, etc. Et en plus, en fait, quand on réalise, c'est que Ironman, ben, il s'auto-cannibalise avec d'autres activités. On le sait, maintenant, ils sont aussi impliqués dans le trail avec l'UTMB, marathon, course de VTT, etc. En tout cas, ça se partage un peu la même clientèle. Et 5, et probablement le plus important, c'est l'inflation qui fait en sorte que les coûts de production, ils ont explosé. Et que les pratiquants, ben, ils sont de plus en plus à se questionner sur les prix des courses. Il y a une concurrence. Puis tu sais, avec l'inflation, ben, tu commences à réfléchir, à utiliser ton cerveau, et tout d'un coup, tu te dis, mais merde, je vais vraiment dépenser $200 pour m'acheter une chaîne avec un traitement qui a pris 10 minutes avec de la cire. Ben non, voilà, tout ça, tu te dis que ça vaut plus la peine, puis que tu vas voir ailleurs.
Effectivement, je pense que leur fer de lance, on va dire que l'événement principal, les championnats du monde, on verra ce que ça donne. Pour pas être trop négatif, c'est vrai que la précédente édition des 73, des mondes 73 qui avait été organisée à Nice, c'était une belle édition, c'était beau. Franchement, très bien organisé, et généralement les courses en France à Ironman, on peut dire que c'est bien organisé, et on peut dire qu'Ironman France fait un bon boulot aussi, donc ça faut le dire. Par contre, c'est vrai que bah c'est devenu un petit peu la fête au slot, et on a perdu un petit peu l'identité qui était le championnat du monde avec vraiment une volonté de se qualifier, l'élite qui pouvait aller là-bas. Alors l'élite qui pouvait se le payer, parce qu'il faut pas se cacher la face, aller à Hawaï, ça coûtait déjà de l'argent. Là, il y a des gens qui vont pouvoir se payer un championnat du monde, mais maintenant on a des gens qui se qualifient au-delà des centièmes, voire des 200e places sur certaines courses pour avoir un slot, donc ça rime plus à grand chose. Mais à la limite, est-ce que bah c'est pas une nouvelle version d'Ironman et qui finira par marcher en fait, et d'avoir un championnat du monde pas forcément trop élitiste, même si à 1 600 €, enfin tout du moins sur la performance sportive, parce qu'à 1 600 $, c'est vrai que ça restera élitiste pour le porte-monnaie, mais voilà, on verra bien. De toute façon, on verra cette année. On va peut-être pas se plaindre non plus qu'il y ait que par exemple 2000 athlètes ou 1 500 femmes. On s'est souvent plaint qu'il y avait trop de monde sur les courses, donc écoute, un championnat du monde avec 1 500 participantes, si c'était 1 500 élites, ce serait super. C'est pas forcément le cas. Écoute, si elles sont 1 500 à s'amuser, à profiter, et bah pourquoi pas, hein, elles ont le choix. Après, est-ce que vraiment maintenant on pourra parler de championnat du monde? Voilà, je pense qu'ils vont perdre un petit peu de leur aura, mais si la société continue à marcher, je rappelle que les sables étaient complets à 550 € l'inscription, que là, Aix-en-Provence, si vous voulez vous inscrire aujourd'hui, c'est 430 € et il y aura encore beaucoup d'inscrits. Donc a priori, c'est que le système continue à marcher.
Je te le dis souvent, ça c'est une réalité française qui peut être très différente sur d'autres aspects.
Ouais, on a des retours différents en Amérique du Nord, effectivement, avec des courses qui sont moins complètes, où on va en parler sûrement, mais avec Mont-Tremblant qui s'arrête, avec d'autres courses qui vont disparaître, peut-être Lanzarote qui est dans les tuyaux aussi, qui va peut-être s'arrêter. Et puis bah aussi avec par exemple le départ du CEO d'Andrew Messick, qui se retire donc, qui se retirera en fin d'année. C'est un petit peu aussi lui qui, bah, quand une société est critiquée, généralement c'est le CEO qui saute. Et là, il y a eu beaucoup de critiques ces derniers temps. Alors, est-ce que c'est un départ volontaire ou un départ forcé? Bah, on ne sait pas trop. En tout cas, toi, tu avais des choses à nous dire sur ce sujet.
D'ailleurs, en fait, lui, il défend en disant qu'il devait l'annoncer avant le fameux accident mortel qui a eu lieu à Ironman Hambourg. Moi, en fait, pour résumer, récemment, avant, le propriétaire, c'était Wanda, un groupe chinois, etc., qui a fini par vendre, je pense que c'est durant la COVID. Ironman a été racheté par le groupe Advance, qui est une sorte de fonds boursier, surtout spécialiste dans tout ce qui est communication. Ils sont propriétaires du groupe Condé Nast, qui est assez énorme point de vue média en Amérique du Nord et tout. En tout cas, qu'est-ce qui est certain, c'est qu'ils ont acheté au plus
pour vraiment compléter ton propos, en fait, c'est World Triathlon Corporation, donc qui est vraiment l'entité, on va dire la maison mère Ironman, qui est acheté en 2008 par Providence Equity, qui est racheté en 2015 par le groupe chinois Wanda pour 650 millions d'euros et qui est revendu en 2020 fonds d'investissement américain. Ouais.
Et le problème, c'est qu'ils achètent ça en plein Covid, pendant que la compagnie avait quand même pas, en tout cas Ironman avec l'époque Wanda avait énormément grossi parce que Wanda étant une compagnie chinoise, ils voyaient vraiment le produit comme beaucoup plus international. Ils voulaient absolument développer beaucoup plus le produit en Chine, enfin dans plein de pays où ils voulaient pas aller avant. C'est pour ça que sous Andrew Macek, il avait vraiment eu le mandat de faire Ironman une marque encore plus globale que jamais. D'une certaine façon, il a réussi totalement son mandat. Le problème, c'est qu'en ajoutant autant de courses, il fallait absolument avoir plus de spots pour Kona, d'où l'idée d'avoir un événement de championnat du monde pendant 2 jours. Là où le plan a totalement foiré et s'est auto-saboté, c'est que dès lors la première année à Kona avec les 2 jours, la communauté locale s'est complètement révoltée en disant que c'était beaucoup trop et aussi en fait l'économie de Kona avait plus tant besoin de la course Ironman parce que le revenu touristique était déjà au rendez-vous et que etc. Fait que là tout le plan a commencé à se saboter totalement. Là il y a eu l'initiative d'ajouter Nice comme deuxième place pour le championnat du monde et la sauce elle prend pas. Même Kona, c'est vraiment une surprise que les femmes veulent pas y aller, que les hommes ils comprennent pas pourquoi ils iraient à Nice s'ils peuvent déjà s'inscrire à la course. En tout cas, il y a le côté tout élitiste qu'il y avait avant, sorte de club privilégié qui réussissait tant bien que mal à avoir un dossard pour faire une course Ironman dans l'idée de se qualifier et tout. Là avec les on voit qu'il y a eu la PTO qui est arrivée, qui se sont déjà auto approprié tout l'aspect pro et tout, fait que ça va mal. Mais c'est qu'il a fait son mandat, mais en fait c'était pas la bonne direction, c'était pas la bonne conjoncture. Pour parler des courses qui s'arrêtent, en fait la liste elle est super longue en ce moment et il faut qu'on réalise là, Tremblant, Timbermatt, Zurich, Alaska, Tulsa, comme on disait probablement Lanzarote et qui fait très mal parce que c'est une course historique. En Angleterre, là où soi-disant que le triathlon allait super bien et ils retirent Bolton, Stratfordshire, on voit de plus en plus de courses où ils mélangent 70.3 et Ironman la même journée, ça c'est pas un bon signe. Fait que c'est ça, les coûts qui changent toutes. Fait que moi, je pense que c'est plus Messi qui s'est fait mettre à la porte qu'autre chose, parce que le groupe Advance, il avance plus du tout et que là, il doit être vraiment très nerveux face à son investissement, des pertes qui s'accumulent et ainsi de suite. On doit rappeler qu'il n'y a pas si longtemps, Ironman à Kona, c'était plus de 50%. Des participants qui étaient américains et aussi canadiens, fait qu'il y a vraiment une évolution, tout a changé, mais il faut qu'ils retrouvent un autre équilibre. On peut imaginer qu'il va y avoir énormément de courses qui vont disparaître puis qu'ils vont retrouver, ils vont surtout essayer de trouver un point de rentabilité avant tout, puis c'est ça, va falloir voir comment ça se passe par après. Puis est-ce que PTO et Challenge, ils ont une carte, on en parle tout le temps, là, comme pour faire encore plus mal à Ironman, c'est fort possible.
Oui, je pense que concernant Messi, qu'effectivement sur son image de CEO, et c'est un peu détérioré. Bon, c'est pas forcément sa mission première que d'être aimé par tout le monde, mais c'est vrai que c'est pas ce qu'on retiendra au niveau de la communication. Il y a eu beaucoup de maladresses ces derniers temps. Je pense qu'Ironman a assez mal géré le Covid et l'après Covid et a perdu. Pas mal de monde pendant cette période-là, alors que avant Covid, Challenge était quand même en recul, perdait quelques courses, Roth restait, mais alors que maintenant tout s'est inversé en fait, on voit que Challenge a pris un peu plus d'ampleur et au profit d'autres organisations comme PTO d'ailleurs, Et je pense que Pitio aurait eu du mal à exister avant Covid, en tout cas dans sa forme actuelle, et que Pitio profite un petit peu de ça. Et ouais, Messi, effectivement, concernant sa mission, il a vendu deux fois Ironman et avec un gain, donc contrat rempli pour lui, c'est sa mission hein, de faire avancer le bateau, mais effectivement, le bateau est en train de couler un petit peu. Mais bon, on verra ce que ça donne pour la suite. Verdict pour le championnat du monde à Nice la semaine du 10 septembre et on verra comment ça se passe, mais j'ai pas de doute quant à l'organisation. J'ai un peu plus de doutes sur l'aura qu'aura ce championnat du monde et ça nous donnera un petit peu la tendance pour 2025. Allez, toujours sur Ironman, on a vu le week-end dernier une disqualification avec Matt Sharp, le Canadien qui s'est fait disqualifier sur le 73 main, arrivé troisième, il franchit la ligne sans fermer sa trifonction. Ça a fait un petit peu d'histoire dans les actus, ça fait une petite brève un peu cocasse. Bon, perso, moi tu sais ce que j'en pense, je trouve ça dommage, je trouve ça dommage de disqualifier quelqu'un, même si c'est la règle établie, donc je trouve ça très bien que la règle soit établie. Par contre, on se souvient tous du sprint entre Lionel Sanders et Rudy Van Berg avec la trifonction grande ouverte, où même il y a une ou deux semaines, Lionel Sanders qui gagne un Ironman, je crois que c'est Oregon, il me semble, et il passe la ligne brandissant la banderole avec trifonction ouverte, il n'est pas DSQ. Voilà, c'est ça qui est un petit peu dommage, c'est qu'on a l'impression qu'il y a quand même deux salles, deux ambiances, c'est dommage pour Sharp. Et est-ce qu'on aurait fait DSQ pour Sanders?
Ouais, c'est et d'où le dicton que t'es jugé souvent en fonction de ton statut. Moi, je tiens quand même à me rappeler d'une disqualification de Crowe à Hawaï en 70.3 parce que à cette époque-là, t'avais pas le droit que ta tri-suit dépasse de ta wetsuit. Ça, c'était quand même un peu incroyable. C'était le début des manches longues sur les tri-suits.
Non, mais il y en a eu plein. Hein,
oui.
Souviens-toi de la test event de Tokyo. Avec les Anglaises qui arrivent.
Ah oui, c'est vrai.
Ouais, on en a hein, des disqualifications comme ça. Enfin bon, voilà, c'était la petite brève un petit peu sur Matt Sharp, un peu plus sérieux. On a le nouveau cas de dopage avec Thomas Steger. Alors, cas de dopage, oui et non. On ne sait pas trop, c'est un petit peu étrange parce que le communiqué de presse de l'agence autrichienne qui a annoncé sa suspension donc entre octobre 2022 et octobre 2023, donc pour un an, n'a pas mis grand chose dans son communiqué, juste que il a été en possession de produits interdits, mais donc il n'a pas été contrôlé positif, en tout cas suspendu un an. Moi, ce qui me dérange dans cette histoire, c'est que la POAC Team, son équipe, a fait un communiqué de presse pour soutenir son athlète. Il a quand même été suspendu, il a quand même accepté une négociation avec l'agence autrichienne donc pour être condamné à un an, donc il a accepté sa sanction. Voilà, ça me dérange un peu qu'une équipe accepte une sanction de dopage, enfin soutienne un athlète qui a accepté une sanction pour détention de produits interdits.
Ouais, et puis il faut faire aussi attention aux explications des athlètes, ça veut pas dire qu'ils mentent, mais moi j'ai lu un peu, ils parlent de, je pense que c'était un spray pour l'asthme, que c'était à son père qui vit toujours chez ses parents et ainsi de suite. À la fin, là, il y a quand même eu la police qui a débarqué chez lui pour trouver des produits, fait que il devait probablement avoir certaines preuves. Je pense pas que la police débarque comme ça sans preuves.
Mais il a eu une sanction réduite. Hein. Au départ, c'était 4, je crois. Et puis finalement, il a eu un an. Donc, c'est très bizarre, c'est toute cette histoire. Mais comme il n'y a rien dans le communiqué, ça laisse la place à la défense pour tout le monde. Mais il ne faut pas oublier qu'il a accepté une négociation. Et que si tu acceptes, ça veut dire que tu es... t'acceptes ta culpabilité. Donc, voilà, c'est quand même dommage. Et ouais, l'histoire de l'asthme qui appartient à son père, ouais, c'est un petit peu bizarre. Ouais. Je ne sais pas trop quoi en penser. J'espère qu'il dit la vérité pour lui. Mais je ne sais pas trop quoi en penser. Voilà. Vous nous direz, les auditeurs, ce que vous pensez de l'histoire. On a déjà vu quelques tendances quand même. Le « c'est pas moi », c'est un petit peu un classique. Lui dit qu'il a été dénoncé aussi. C'est pour ça qu'il a vu la police et que c'était une dénonciation... calomnieuse. Voilà sur Thomas Steger. Le dernier truc, sur Thomas Steger. J'en étais. Allez, et on fait un point sur les blessures. Allez, maintenant on va se diriger. Attends. Et maintenant on va se diriger du côté de l'infirmerie avec Alistair Brownlee.
Est-ce qu'on le reverra un jour? En fait, il prend le départ de toutes les courses sur les inscriptions, mais en fait, il déclare forfait sur toutes à nouveau pour PTO, Milwaukee et tout. On en a déjà parlé. Il y a une sorte de manque de respect parce qu'en fait, il l'explique pas et il se retire pas des listes longtemps à l'avance. Fait que les médias finissent tout le temps par écrire plein d'affaires dans à quel point ils sont excités, mais finalement, il vient pas. Aussi, faut rappeler que Flora Duffy, elle est toujours blessée et qu'elle nous manque. Vincent Lewis, il est toujours pas revenu, mais il semble avoir recommencé la course à pied. Enfin, c'est ce qu'il essaye de nous faire, en tout cas, qui véhicule via ses médias sociaux. Par contre, qu'est-ce qu'on a appris durant la pause, c'est que Georgia Brown Taylor, ou Taylor Brown pour moi, elle avait une déchirure au mollet. Ça, c'est une sorte de blessure qui peut être assez compliquée. Est-ce qu'elle sera au test event de Paris? On espère. Est-ce qu'elle sera en forme optimale? Ça va être difficile. Autre dernière blessure qui vient d'arriver. D'ailleurs, il était annoncé, il avait eu sa wildcard pour le PTO de Milwaukee. C'est le forfait dernière minute de Martin Van Riel, le Belge. Il a expliqué sa blessure, en fait, ou en tout cas les circonstances. En gros, sa chaîne aurait droppé. Du coup, il est passé devant son, par-dessus son vélo et manque de chance, en fait, il a foncé dans un poteau. Au final, on parle d'une blessure à l'épaule. Est-ce que c'est la clavicule ou pas? On ne sait pas. Mais pour le Belge de 30 ans, c'est vraiment un coup dur parce que le test event risque de passer à la trappe et puis que indirectement, ça aura aussi un impact sur les courses parce que il pesait durant les courses dans le sens que c'est un excellent nageur et il est toujours généreux dans natation. Dernière chose, puis je pense que c'est important, une petite pensée pour l'Italienne Angie Olmo, la conjointe de Léo Bergère, qui est actuellement en Allemagne pour traiter la fameuse maladie de Lyme. Audrey Merle est déjà passée par là. C'est un traitement qui est assez compliqué et lourd. Et puis, c'est une bonne occasion pour rappeler, surtout à cette époque, que lorsque vous courez dans certains environnements, surtout en montagne, etc., c'est souvent important ou c'est en tout cas c'est préférable de couvrir vos jambes et aussi à la fin de la sortie, de bien vérifier qu'il n'y a pas de tiques qui sont sur vos jambes, etc., parce que c'est dangereux et que c'est vraiment une maladie très compliquée.
On va basculer maintenant sur un sujet un peu plus léger avec la folie Sanders. Donc, tu voulais nous dire quelque chose sur sa page YouTube, c'est ça? T'as vu des petites choses?
Ouais, en fait, toutes les semaines, il y a un nouveau chapitre, etc. Comme il le disait lui-même, il faudrait faire une série de Netflix sur lui, puis les pros, parce que c'est trop divertissant, etc. Moi, je trouve que c'est un gars super attachant, mais je l'ai déjà dit, il est en train de devenir une propre caricature de lui-même. Chose intéressante, Sam Long et lui ont commencé à s'entraîner ensemble, ce qui est assez cool, etc. Là, il nous parle tout d'un coup d'une coalition non-américaine pour finalement battre les Européens. Cool, c'est très bien, super. Là, il retombe dans des sortes de déclarations un peu choc, un peu qui énervent. En gros, il commence à expliquer que la présence des motos font en sorte qu'il peut plus gagner de course sur Ironman, etc. Oui, non, faut pas exagérer non plus. En tout cas, il en a aussi profité dans le passé. Il parle de lui comme d'un YouTuber et qu'il se compare aux autres vedettes et qu'il dit qu'il ne fera pas de choses stupides juste pour avoir des vues. Oui, ok. Mais tu sais, il y a pas si longtemps, tu nous disais aussi que tu voulais complètement arrêter les médias sociaux et tout parce que tu avais pas de temps à perdre puis que tu voulais te concentrer. Et finalement, en fait, tu as l'impression qu'il y a toutes les semaines, faut que tu relances le débat par toi-même. Je sais pas. Moi, j'ai envie de passer à autre chose. Et d'une certaine façon, ça m'a plus amusé de regarder la communication de Cam Ward, en fait, qui vient de se taper une séance un peu folle de 350 km à vélo, ce qui représente 11 heures de vélo et surtout un dénivelé de 8000 mètres. Je pense que Nice, il va trouver ça facile.
Ouais, et pour finir vraiment en beauté ces actualités, AlphaWin, qui va ramener un triathlon à Wildflower, est en train de faire revivre un festival. Alors, tu peux nous en dire plus là-dessus?
J'en ai déjà parlé dans d'autres épisodes. En fait, Wildflower, c'est un peu vu comme le Woolstock du tri. C'est le concept de festival, ça veut dire qu'il y a toutes les distances pendant plusieurs jours. C'est une place très reculée où tu es obligé de faire du camping et tout. Et tous les triathlètes restent ensemble, font la fête, etc. Ça a marqué les esprits avec leur fameuse aid station où c'est juste des nudistes, en fait, qui te donnent à boire et tout. Pendant une époque, il y avait énormément de pros qui faisaient cette course-là, qui préféraient même faire cette course-là à d'autres courses Ironman. Fait que c'est à voir. Alpawin essaie de relancer le truc. Moi, j'ai regardé les prix, c'est assez impressionnant parce que c'est quand même 400 $. Fait que pour une course indépendante et tout, pour 70.3, c'est pas donné. Est-ce que c'est vraiment...
Ouais, mais bon, si c'est du triathlon nudiste et puis que tu peux écouter du Jimi Hendrix, moi, je suis prêt à payer 400 $.
Enfin, je suis pas sûr que c'est dans l'esprit Woodstock et hippie de payer aussi cher, mais bon, c'est ça le triathlon maintenant. Fait que voilà.
Et la grosse actualité de la semaine, c'était l'annonce de la retraite de Yann Frodeno. Et oui, la légende va partir à la retraite, tout du moins professionnelle, en fin de saison. Il reste donc deux courses avec la PTO, Milwaukee ce week-end et l'Ironman Championnat du Monde à Nice le 10 septembre. Et donc on vous en reparlera plus sur le prochain Trichot. On passe tout de suite, on refait la course. On va commencer tout de suite avec les WTCS et la WTCS d'Hambourg qui était support du championnat du monde relais et championnat du monde junior.
Alors c'est vrai que le week-end d'Hambourg, ça a été extrêmement chargé puisque les courses ont commencé le jeudi pour les juniors. Donc sans trop de surprise, les Français ont brillé. Ilona Adoum l'emporte chez les filles après une course menée de bout en bout. Seul au monde à la sortie de l'eau, une partie du vélo solo... Et ensuite, une transition éclair qui a fait qu'elle s'est envolée seule vers la victoire dès le début, sans trop de surprise. Donc, on peut dire qu'elle a gagné son premier titre avec la manière. Ensuite, les deux Françaises n'ont pas à rougir non plus, puisqu'elles ont fait des très belles courses. On a cru au doublé grâce à Manon Laporte, mais elle se fera finalement prendre au sprint par la Mexicaine de la Pena Schott, ou Scott, je sais pas trop comment on prononce. Et là, Alex va nous rappeler que les Mexicains adorent le triathlon et que ça devait être la fête là-bas. Sinon, donc, Léonie Douche prend une belle 7e place sur son premier championnat international, il me semble. Niveau francophonie, on retrouve la Belge Haas Flee ou Flee Rackers toujours dans le top 10, la Canadienne Cara McDonald 12e et un tir groupé des Luxembourgeoises Gwen Notum et Linda Krombach qui font 21e et 22e.
Ah, il fallait que tu nous les rajoutes, les Luxembourgeoises.
Bah, évidemment. Chauvinisme, et j'ai pas fini sur nager garçon aussi. Par contre, du coup, chez les filles, on pouvait noter, enfin, c'est pas l'absence en soi, parce que c'est juste qu'elle avait pas le droit de faire la course, mais c'est la petite pépite hongroise Fanny Zalei. Elle n'a que 15 ans, et donc il me semble qu'elle était trop jeune pour faire les mondiaux juniors, parce qu'elle est de 2008, et je pense que c'était de 2004 à 2007 pour pouvoir faire les mondes juniors. Mais on va reparler d'elle un peu plus tard.
Qui sera bientôt ta coéquipière, d'ailleurs.
Mais... Exactement. Trop de suspense. Donc chez les garçons, on s'attendait à une victoire de Thomas Hansmaenel qui était couronné l'an dernier à Montréal où il avait vraiment un peu dézingué tout le monde, d'après mon souvenir. Il était en plus dominant depuis le début de la saison chez les jeunes, sur les Coupes d'Europe, sur les France de tri, où on se rappelle la bagarre avec Nils pour le titre. Mais finalement, il fait 4e. Le vice-champion de France, donc Nils Sergueri, lui, pour le coup, sera battu jusqu'au sprint final, mais finira vice-champion du monde. Derrière Joao Batista, un nom familier, car son frère avait déjà remporté un titre chez les juniors en 2019 à Lausanne. Et encore un peu de chauvinisme, le Luxembourg a frappé fort avec la 12e place de David Lang, ce qui pour nous est plutôt très 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 bien.
Et moi, j'ai pas changé en un mois, je pense toujours au développement précoce. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont déjà beaucoup et très investis dans leur projet. D'ailleurs, il y a eu une étude très intéressante dernièrement qui disait que c'était les athlètes avec des développements très lents qui étaient les meilleurs au final. Étude qu'il faudrait forwarder
à la FFT. Dans tous les sports ou dans le triathlon spécifiquement?
Non, dans tous les sports. Pour le moment, surtout que en tout cas, en ce moment, je reviens toujours avec la même chose, mais j'ai hâte de voir cette nouvelle génération junior, U23, etc. en WTCS parce que il y a une transition qui a du mal à se faire. Mais j'ai surtout remarqué, j'arrête mes sujets tabous habituels pour passer à un autre avec la magnifique troisième place de Québécois Mathis Beaulieu. On va pas se le cacher, moi j'attendais à le voir gagner le championnat du monde. Mais bon, un Québécois sur un podium, c'est rare. Puis ça reflète un très beau mouvement actuel dans la belle province parce que on est vraiment capable de développer des très bons athlètes avec des, je veux dire, une situation géographique un peu compliquée quand même. Puis je pense que on va être prêt à faire un meilleur job point de vue transfert pour les apporter jusqu'à l'élite, ce qui était un peu compliqué. Mathis profite de la structure de l'Université de Laval à Québec, qui a une certaine expérience dans d'autres sports comme l'athlétisme et tout, fait que tout ça est à suivre.
Ouais, alors tu nous parlais de développement précoce, on va quand même dire que chez les champions du monde junior, on a quand même eu Fred Belaubre, Vincent Louis, Dorian Coninx, Léonie Perriot, Cassandre Beaugrand, vice-championne du monde, hein, Léonie et Cassandre.
On peut aussi t'en parler qu'on disparu. Hein,
mais... Alors, bah ouais, mais bon, ils sont quand même pas mal, tu vois. David Hoss, qui a été vice-champion du monde, Jessica Fulagar, qui a fait médaille de bronze et qu'on a vu sur la WTCS, dont on parlera.
Enfin, ah, ça va Léo tellement Bergère, bien qu'elle a changé de nationalité. Mais...
Léo Bergère, qui a fait médaille de bronze aussi. Donc, ouais, c'est pas mal quand même comme développement précoce.
C'est pas trop.
Ouais, je peux t'en parler d'autres comme Jack Blaswissel, je peux te parler de c'est quoi l'Africain du Sud, Vianne Sulvalt, je peux t'en parler de plein là de d'athlètes qui ont été très forts jeunes.
Non, mais après, de toute façon, il y a pas de truc type, il y en a, ils vont être très forts chez les jeunes et ou ils vont juste arrêter le tri parce que ça les saoule ou c'est des choix aussi, c'est pas que du
développement. Ça fera l'objet sûrement d'un long débat que nous n'allons pas faire ici maintenant tout de suite, mais en tout cas, nous allons enchaîner avec les élites parce que bah, pour Hambourg, il y a eu quelques résultats aussi du côté des élites et des relais mixtes.
Ouais, alors déjà, Hambourg, il faut savoir, pour ceux qui ne le savent pas, que c'est genre une des courses qui a, enfin, je ne sais pas si on peut le dire comme ça, mais la meilleure ambiance, que ce soit en tant qu'athlète ou public, les gens sont vraiment, bah déjà il y a beaucoup de monde et les gens sont au taquet, bon forcément avec les Allemands d'une part vu que bah, un peu de chauvinisme oblige, mais même avec tout le monde des fois on s'entendait pas courir, donc c'était, et je trouve que sur le format éliminateur qui est un format assez spectaculaire avec plusieurs courses, et je trouve que c'est vraiment le lieu idéal pour ce genre de course, donc c'était vraiment, je pense, un très bon moment pour tout le monde. Donc rapidement,
parce que pour ceux qui nous écoutent, tu as fait la course hein Jeanne hein.
Oui, effectivement. Donc, j'allais en venir avec un rapide tour des résultats. Donc, chez les hommes, c'est Aiden Wild qui l'emporte devant Alexis et Vasco Villacha. Il y a, petite chose à noter, Christian Blumenfeld qui grappille encore une petite place en finissant quatrième sur un format vraiment court. Donc, on peut se dire quand même que c'est plutôt bon signe. Enfin, selon mon point de vue. Mathieu Hauser qui finit cinquième. Personnellement, je l'imaginais, gagner ou en tout cas être un peu mieux placé, même si cinquième ça reste quand même très très bien, surtout que ça s'est joué à rien sur ce genre de course. Niveau francophonie, donc il y a Matt Studer pour la Suisse qui fait sixième, Tyler Mislachlock neuvième pour le Canada, Van Riel douzième pour la Belgique, Tom,
c'est toi qui l'a aujourd'hui le Tyler,
c'est moi, Tom 17e pour la France, Tom Richard, Jawad 22e pour le Maroc et Charles Paquet 25e. Il y a le Gaines 28e et bon, je me suis arrêtée au top 30 parce qu'il y avait quand même beaucoup d'athlètes francophones. Chez les femmes, bon, je vous l'apprends sans doute pas, mais c'est Cassandre qui a gagné la course, si on peut même dire survolée, parce qu'elle a quand même mis 10 secondes à la deuxième sur un format vraiment court. Donc moi qui n'ai pas fait la dernière finale, j'ai pu le voir en tant que spectatrice et c'était quand même assez impressionnant. Donc c'est Bess Potter qui finit deuxième, elle prend le lead au général. D'ailleurs, Aiden a était aussi passé leader au général après cette course. Je sais pas s'il l'a gardé. Je pense qu'il l'a gardé après Sunderland. Ça me paraît logique, mais bon, bref. Gros tir groupé des Allemandes avec Laura Lindemann qui fait 3, Annika Kor 4, qui a fait d'ailleurs 3e à Sunderland, et Marlène Gomez 5e. Pour la francophonie, ça a été assez solide. Une 8e place de Katia Scher, 9e de Joéline Vermeulen. Donc Katia, c'était une Suisse. Joéline, c'est une Belge. 11e pour moi, le Luxembourg. Et 25e pour Nora Gmür, encore une Suisse.
Puis c'est dommage que Pousson soit pas là parce qu'il y a un sujet de l'heure que j'ai eu... petit débat en soi dans la communauté, c'est celui des gabarits des athlètes, parce qu'on commence à parler que des athlètes seraient presque trop légers, enfin c'est pas de leur faute et ainsi de suite, mais qui seraient un peu désavantagés sur ce style de parcours. Si tu prends l'exemple parfait de Alex Yi, qui selon plusieurs spécialistes aurait le meilleur ratio point de vue wattage et kilo, sur un parcours plat, etc., c'est pas le rapport qui est important, mais c'est la puissance en soi. Il sort peut-être beaucoup plus usé du vélo qu'un Aiden White. C'est un sujet qui mérite d'être parlé. Je sais que ça commence à sonner certaines alarmes, surtout pour avec le parcours de Paris, qui sera justement aussi très roulant et que ça sera plus le wattage que le ratio. Autre truc très important, c'était la présence de Thomas Bach, le grand chef des Jeux Olympiques, un peu lui qui décide de tout. Évidemment, sa présence était pour valider puis de montrer le fameux nouveau format du Eliminator. On doit d'ailleurs rappeler aux plus jeunes que la création du triathlon avec le drafting, qui est détesté par certains, c'était justement l'idée des Jeux Olympiques, du président de l'époque, qui était Juan Antio Samaranch, qui est quand même resté 20 ans à la tête du CEO. On a eu droit à un article assez intéressant de Inside the Game qui parlait des commentaires de Bach justement sur l'événement. En gros, il a dit que la formule était intéressante et qu'elle pourrait être incluse dans les JO, très probablement Los Angeles, mais que il y a pas mal de mais, cela demande plusieurs validations, en gros que le circuit se développe un peu plus avec ce format-là, parce qu'il faut avoir plus d'expérience pour avoir vraiment un avis là-dessus, et que aussi il y a un questionnement sur les athlètes, parce qu'il veut avoir la preuve que ça soit les mêmes athlètes qui vont être bons sur ce format-là que ceux qui sont sur la distance olympique. Pourquoi? Parce qu'on sait que les Jeux olympiques veulent bien avoir plusieurs distances, mais ils veulent s'assurer que ça soit les mêmes athlètes qui seront à ces événements, parce que on peut pas avoir plus d'Olympiens. Il y a une sorte de restriction là-dessus. Fait que World Triathlon doit organiser plus de courses et on risque de voir plus de courses éliminatoires l'année prochaine.
Bon, après, on voit déjà avec les résultats de Hambourg, et je pense, même si on prend ceux de Montréal les deux dernières années, que ça reste, en tout cas, les meilleurs, ça reste les athlètes, enfin, par exemple, Cassandre, on en parlera après, mais elle a gagné Sunderland deux semaines après, Aiden, il a déjà fait des podiums, enfin.
Ah, mais combien de victoires pour Cassandre sur format olympique?
Zéro, certes, mais Cagliari, elle a fait quatrième, ça reste très bien, attends. Moi, je suis arrivé cinquième, c'est quand même très bien.
Mais c'est, mais je pense que c'était drôle parce que à Sunderland, elle s'est fait poser la question si on avait le droit à une nouvelle Cassandre, la version britannique, en tout cas, on pourrait dire presque. Mais si elle avait changé, parce qu'effectivement, à Hambourg, elle est impressionnante. Elle agit vraiment en tant que boss, en prenant à chaque fois faisant des natations incroyables et tout. Fait que moi, j'ai l'impression qu'il y a peut-être un nouvel état d'esprit, il y a peut-être une plus grande confiance en elle, et surtout, elle doit profiter de l'absence de Knib, de Duffy, etc., pour s'affirmer comme presque la leader en ce moment du circuit.
Bon, après, je pense que c'est vrai qu'elle a le rôle de leader de manière générale, et c'est pas une surprise, c'est surtout qu'elle a grandi. Mine de rien, elle a 26 ans, je pense, du coup. Et après, c'est sûr que quand t'as pas Georgia, t'as pas Flora, t'as pas Zafires à son prime, je sais pas comment on dit. Mais bon, bref, il en manque, ça change un peu les dynamiques. Mais après, je pense que pour le coup, le truc que tu dis souvent en mode les absents permettent de créer la confiance, c'est sûr que ces derniers temps, là, elle va arriver au test event à Paris. Enfin, j'imagine, après, des fois, c'est facile de dire, ah, il a gagné, donc il va avoir confiance. Je sais que personnellement, ça marche pas comme ça. Mais je pense qu'elle va arriver à Paris, déjà avec un statut de pas la favorite peut-être seule, mais en tout cas une des favorites, et cette année elle a l'air de tenir bien ce rôle en tout cas.
Ouais, moi je suis un peu plus réservé, c'est juste comme je disais, sur format olympique ça a toujours été un petit peu plus compliqué pour elle, alors qu'elle a toujours été très performante sur format sprint. Donc est-ce qu'elle arrivera à passer ça, je sais pas, je lui souhaite hein,
mais pour le coup avec Cagliari c'était un peu étrange parce que c'est sa natation qui l'avait un peu mis dedans. Enfin, du coup, elle était pas dans l'échappée, parce que c'est pas comme si elle avait été avec le groupe de tête, qu'elle avait sauté, parce qu'on peut se dire que son point faible, c'est le vélo. Mais, parce que, faudrait regarder avant sur les Olympiques, si c'était, Genre si elle était devant mais qu'elle n'arrivait pas à courir à son potentiel, enfin, ou alors c'était son niveau de l'époque. Mais là, par exemple, à Cagliari, elle a le meilleur temps à pied. Donc tu te dis, logiquement, si elle est devant... Bon, après, le vélo devant, c'était pas exactement le même que celui qu'on a vécu dans mon groupe, enfin dans notre groupe du coup avec elle. Mais bon, en tout cas, ce sera intéressant. Et course dans 17 jours, donc non, 16 jours. Donc on aura bientôt les réponses à nos questions.
Sur le format éliminateur, en tout cas, ça reste un truc super spectaculaire et tout. Et je pense qu'on est en train d'apprendre aussi les particularités de cette discipline. Les favoris peuvent se faire éliminer. En tout cas, il y a une opportunité d'éliminer les favoris sur les premières manches, mais ça devient beaucoup plus difficile sur les dernières manches parce qu'on se rend compte qu'en natation, en fait, que ça soit lié ou wide, c'est surtout la densité qui leur fait mal. Et sur la dernière manche où ils sont juste 8, ça a été facile pour eux d'être dans le pack et tout. Donc on peut s'attendre à avoir plus de courses l'année prochaine en éliminator, mais il y a une tuile qui est tombée et je vais faire ma transition tout de suite. En gros,
je veux juste dire que pour la natation, je pense que il y a aussi le fait que Hambourg, pour le coup, c'était l'apocalypse sous le pont. Genre vraiment, on voyait rien. Je me suis fait déboîter la mâchoire.
Pour ceux qui n'ont pas vu la course, en fait, il y avait un pont horrible à passer en natation qui était aussi un rétrécissement. Et donc, on nageait dans le noir et sur une portion qui se rétrécissait.
Et du coup, quand tu as moins de monde, déjà, tu peux mieux poser ta nage. Et aussi, je pense que les gens commencent à fatiguer au fur et à mesure des manches et que ça nage moins vite. Et du coup, quand tu es moins bon nageur, bah, si toi, tu perds qu'une seconde, vs les meilleurs qui en perdent 5, tu limites la casse, quoi.
Et si vous êtes curieux, sur l'affaire du pont, je vous recommande de re-regarder les courses parce que tu vois clairement qu'il y en a des qui sont dans le pont, ils changent d'attitude et ils mettent des coups et ils se prennent leur place. C'était flagrant à l'écran.
On voit sous le pont? Moi, je vois
personnellement. En fait, tu voyais de l'arrière. C'est ça. Et c'est ça qui m'a fait rire, c'est qu'en fait, il n'y avait plus l'arbitre de l'ITU avec son iPad. Qu'il le savait là que tu pouvais pas être filmé puis
franchement c'était après je pense que tout le monde paniquait, c'était plus de la panique générale plus que de la méchanceté voulue, enfin j'espère, sinon c'est un peu tristouné, mais bon bref. Mais après
T'es mieux placé que nous.
Ouais, j'ai eu l'impression que c'était méchant, mais après coup je me dis bon, moi par exemple à un moment donné à force de me prendre des coups, j'ai nagé en polo parce que j'osais plus mettre la tête dans l'eau, déjà on voyait rien. Il faisait noir, je me prenais des pieds. Enfin, bon, bref, c'était vraiment pas fun. Mais c'était juste les qualifs, donc voilà.
Juste avant de rebasculer, Alex, sur Leeds, dont tu voulais nous parler, il y avait aussi le relais mixte à Hambourg. Il y avait un relais mixte qui était le support du championnat du monde et donc auquel tu as participé également, Jeanne.
Effectivement. Alors, il y avait donc les championnats du monde de relais mixte pour les jeunes U23 et pour les grands. Donc chez les grands, on va dire les élites, on en avait parlé, mais la France n'avait pas ni d'équipe. Donc sans vouloir leur lancer de pique, je veux juste dire que la Grande-Bretagne, qui est déjà qualifiée au jeu, elle aussi en ayant fait deuxième à Montréal l'année dernière, enfin bref, qualifiée quoi, elle a profité d'être qualifiée, d'avoir rien à perdre pour tenter des choses, ou plutôt en tout cas laisser les jeunes, enfin quelques jeunes se frotter au grand, parce que je crois que l'équipe c'était Bess Potter, Sophie Codwell, le jeune qui a gagné les Mondiaux 23 dont j'ai oublié le nom, et je sais plus, c'était deux jeunes, ah peut-être Jack Willis aussi, et donc bon forcément le résultat est pas joli joli à voir pour... Quand on parle de la Grande-Bretagne, on s'attend à un podium à minima, quoi. En l'occurrence, ils ont fait 14e, à 10 secondes de l'équipe du Luxembourg, enfin 10 secondes devant. Malheureusement, ils nous ont doublé à la fin, c'était un peu tristouné, mais on était quand même contents d'être pas loin d'eux. Mais je trouve que c'est quand même une bonne chose. Je pense qu'ils étaient quand même déçus, parce que le premier relais, c'est vraiment un peu foiré, je pense. Mais je pense qu'ils s'attendaient pas à faire aussi mal, si on peut dire. Mais je trouve que l'idée est bonne, je sais pas, mais... Je trouve ça vraiment cool de laisser sa place aux jeunes, contrairement
aux jeunes ou aux moins jeunes. Hein. On aurait pu penser à Audrey Merle, Mathilde Gauthier.
Oui, oui, non, mais voilà, mais c'est eux, en l'occurrence, ils ont mis des gens.
En fait, des personnes qui ont déjà été championnes du monde de relais, d'ailleurs.
Mais bon, bref.
Avec ta mère, d'ailleurs, non ? Audrey, non ?
Oui,
en 2015, c'est ça ? Ouais.
C'est ça, time flies. Mais bon, on va pas s'attarder sur la question, de toute façon, chacun a son point de vue. On va parler peut-être de course. Donc, les Allemands ont gagné. Alors, comme très souvent à Hambourg, ils ont eu des ailes, hein, que ce soit sur l'indiv ou le relais, mais là, en l'occurrence, ils sont imposés à la maison. Laura, elle a fait le dernier relais seule au monde. Je pense qu'elle a dû prendre un sacré kiff en passant à vélo devant tout le monde. Ça devait être sympa. Ensuite, donc, ils ont un ticket validé pour les Jeux. L'équipe préférée d'Alex, 1, 2, 3, roulement de tambour, les Neo-Z, se sont classés 12e.
Médaille, on y croit.
Mais par contre, ils n'ont pas fait de podium à Sunderland. J'étais un peu surprise, mais je crois qu'il y a eu des maladies. Enfin, bref. Et petite surprise, mais pas vraiment, parce qu'on connaît le potentiel, ce sont nos amis suisses qui ont fait 3e. Un peu plus décevant, si on peut dire, ou, enfin, je sais pas, mais les USA, on les attendait peut-être un peu mieux classés, ils finissent 4e. Et les Hongrois finissent 5e, ce qui est plutôt très bon signe, parce que leur deuxième fille, donc quatrième relayeuse, était pas, enfin, c'est pas une grosse tête d'affiche, on va dire. Et donc, à voir ce que ça va donner. Alors, peut-être pas pour Paris, parce que ça fera tôt, mais pour Los Angeles, vu qu'ils ont une équipe quand même assez jeune, avec Lehmann, bon, que ça soit Devey, Bichak, je sais pas lequel ils veulent mettre. Mais je pense que quand la Fanny Zalai, donc la petite Hongroise qui est de 2008, va commencer à arriver, je pense que ils ont, enfin, eux, je pense qu'ils sont assez confiants. Vous pouvez le voir sur mon vlog quand je pose la question à Zanet.
Un petit peu plus pour le vlog. Pour la team USA, c'était Seth Ryder qui était en premier relayeur. C'est pas non plus une grosse tête d'affiche pour team USA.
Ouais, mais ouais, il a quand même fait un top 20 la veille.
Si tu veux parler d'un podium, parce qu'ils font quand même 4, si tu veux faire podium au championnat du monde ou même s'ils veulent espérer un podium aux Jeux Olympiques, je pense que c'est pas Seth Ryder qu'il leur faut. Mais
bah, il était remplaçant pour les Jeux, hein, non, c'est... en soi. Et par exemple,
remplaçant, c'est... enfin, je veux pas lui faire offense, mais
dans la course individuelle, par exemple, on va parler de Pearson, qui est le premier à ne pas être en finale parce qu'il fait 31, donc il doit faire 6e d'un des repêchages, alors que Seth est passé sur les repêchages de, je sais pas, alors parfois les deux qualifs, c'est un peu injuste, peut-être t'en as qui aura des meilleurs nageurs, d'autres ci, d'autres ça, mais en l'occurrence Seth est passé et personne n'est pas passé. Et McElroy,
et pour la Grande-Bretagne, pour compléter ce que tu disais, c'était Connor Bentley qui était le premier relayeur.
Je savais qu'il y avait un B dans l'histoire, mais... Et aussi, le Luxembourg fait donc 15e devant les Canadiens.
Est-ce que tu peux nous rappeler la composition de l'équipe du Luxembourg, quand même?
Alors, nous avons eu Bob Haller en premier relayeur, moi-même en deuxième, Grégor Payet en troisième et Eva Daniels en quatrième.
Bien, félicitations.
Et là, est-ce que tu crois la qualification du Luxembourg en relais?
Alors, sachant que nous n'avons pas fait de course, oui. Nous ne sommes, enfin, à part celle-là, on vient d'apparaître dans le ranking, donc déjà pour être dans les 8 premières ou 6 premières équipes pour passer direct, bah c'est mort vu qu'on n'a pas de course. Du coup, notre seule chance, ça va être la course de qualif qu'il y aura avec toutes les équipes pas qualifiées, et il faut faire un ou deux. Donc, on va essayer de faire un ou deux. Et après, sinon, faut qu'on essaie de qualifier deux filles, deux garçons sur les indives, et comme ça, c'est fait. Donc, ça ne sera pas chose aisée, mais ce n'est pas impossible non plus. On y croit.
Alors, on bascule maintenant du côté de l'Angleterre. Alors, avec une news qui est tombée, et la fin de la WTCS Leeds, qui nous fera une transition vers la WTCS Sunderland. Enfin, dans l'ordre que vous voulez, mais je crois que tu voulais d'abord nous parler de Leeds, Alex.
Bah ouais, parce que moi, ça, je trouve que ça fait mal. Je pense que c'est un événement qui avait pratiquement 10 ans.
Ça fait mal.
Oh. Ouais, j'ai exactement la même.
Non, mais ça fait mal. c'est vrai. J'ai pas vos références. Je suis pas dans le...
Bah là c'est pas grave. Honnêtement là on va pas t'en tenir rigueur.
Non mais c'est une course qui était arrivée avec la grande époque chevalesque des frères Brownlee après leur titre olympique et ainsi de suite. C'est une course où c'était un succès populaire dès le début, incroyable. Et en fait, on a appris que la fédération a communiqué pour dire qu'il n'allait pas poser candidature, que l'événement coûtait trop cher, que l'inflation faisait en sorte que c'était impossible, et ils ont balancé tous les chiffres, ce qui est assez étonnant. En gros, ça prend un budget de 1,5 million, qui est comme colossal. Vous pouvez faire un peu de mathématiques. Tu divises ça par 3 000 groupes d'âge, ça fait $500 par personne. Et puis oui, il y a des revenus sponsors, oui, etc. Mais c'est énorme. Et en fait, en ce moment, il y a un vent d'inquiétude qui est assez important en WTCS parce qu'on sait qu'il y a d'autres courses qui pourraient ne pas revenir. On sait qu'à Abu Dhabi, ça marche pas, il y a personne. Calgary, on voit pas comment la course peut être rentable. Montréal, on a aussi des doutes parce que pour la course groupe d'âge, il y avait vraiment pas de participants et du coup, elle est très dépendante au financement des gouvernements et tout. Fait que est-ce que la WTCS va être capable d'avoir un calendrier de 7-8 courses l'année prochaine? Il y a un doute. Est-ce que on risque de vivre une autre comment dire surprise? Parce que à force d'avoir plein de circuits qui ont du mal, ben t'es mieux de te réunir pour faire qu'un seul et être plus fort. Fait que il y a sûrement quelque chose qui est dans l'air. Essayez de faire marcher votre tête, puis vous allez trouver tout seul parce que on ne peut pas le dire. Mais c'est ça.
Et bien voilà, c'était le petit encart sur Leeds, donc qui va disparaître du calendrier et on va basculer. Donc on va rester.
Je l'aurais jamais fait, je suis trop triste.
C'est pas grave, ça reviendra peut-être un jour.
Inch'Allah. Parce que aussi, ah oui, je voulais dire, en parlant des courses, enfin, supprimées, je sais pas, mais qui vont peut-être revenir, mais parce qu'on parlait du public, etc., qu'à Abu Dhabi, ça doit peut-être disparaître parce qu'il n'y a pas de public, mais ça, j'en suis pas très sûre, parce que je crois que bah, c'est aussi une manière de communiquer sur leur état et de faire venir du sport. Mais pour le coup, un endroit où il y avait, bon, moi, j'y étais pas, mais, et je regrette d'ailleurs, où il y avait grave de monde l'an dernier, c'était à Bergen, donc chez Christiane. Et ça devait être au calendrier cette année. Bon, ils l'ont enlevé assez vite. J'ai cru entendre que c'était genre enlevé cette année, mais que ça allait revenir en 2024, j'espère. Mais je veux dire, c'est pas forcément parce qu'il y a du monde que la course a lieu, parce que là, en l'occurrence, les athlètes ont aimé, le public, je pense, a aimé, les gens étaient fous, il y avait du monde, c'était cool. Alors, je sais plus si c'était facile ou pas d'accès, mais des fois, il y a des choses qu'on ne sait sans doute pas et c'est pas si facile d'organiser des courses. Mais c'est dommage parce qu'il y a des endroits sympathiques.
Et ben, en parlant de courses, il y avait Sunderland aussi. Ça, c'était le week-end dernier. Et on retourne donc en Angleterre avec une WTCS qui a vu, alors là, une domination française de bout en bout. Allez, on va le dire et on va être fiers. Désolé, je suis le seul représentant français. Bon, Jeanne à moitié, mais... Bon, quand même, là, on va commencer à te faire la guerre parce que.
Avec ceci, normalement.
Je suis aussi. Ouais, je suis aussi. Mais, français,
oui, toi
mais
aussi,
bon,
toi, tu, voilà, on ne sait pas où te classer, quoi.
Mais toi, tu te définis enfant du monde.
Oh, c'est joli. Alors, WTCS Sunderland, celle-là, tu ne l'as pas faite, Jeanne.
La seule. Amen.
Et donc ça manquait, alors pour moi hein, ça manquait un petit peu de densité, mais en fait ça m'a plu dans la globalité. J'avais un petit peu peur du parcours vélo et puis j'étais sur le retour des vacances, donc au milieu des bouchons, bah ça m'a un petit peu occupé de regarder la course. Le parcours vélo, j'ai trouvé assez sympa. Technique, j'avais un petit peu peur des barrières parce que par endroits c'était un petit peu serré et les pieds des barrières ça me faisait un peu peur. Finalement, bah il y a eu quelques chutes, quelques mauvaises trajectoires, mais un parcours qui était quand même assez technique, qui a pu être assez sélective. Beaucoup de monde sur les routes, et ça, on en a parlé en Angleterre, il y a souvent du monde, et ça, c'était quand même agréable à voir. Sauf la petite cloche, je sais pas si vous l'avez entendu ou sur quoi vous avez regardé, mais moi, j'ai regardé sur World Triathlon, sur Triathlon Live, et il y avait une petite cloche qui devait être à côté du micro d'ambiance, et pendant toute la course, t'entendais ding, 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 ding. J'ai trouvé ça d'un chiant. Mais bon, bref, il y avait aussi quelques petits points, mais ça, je pense que tu vas nous en reparler, mon cher Alex, et avec la fameuse moto qui est venue un petit peu changer le cours de la course chez les hommes. Et bien sûr, voilà, comme je le disais au tout départ, il manquait beaucoup de monde, surtout chez les femmes.
Pour la moto, on en a déjà parlé, je vais le faire juste rapidement. Il n'y a pas si longtemps, World Triathlon avait très bien compris la problématique et plaçait toujours les motos en arrière des groupes. Aussi, on a vu à Montréal où ils ont réussi à diffuser la course sans moto, en intégralité avec des caméras fixes et ainsi de suite. En gros, on fait un peu un pas en avant et deux pas en arrière parce que là, on est à retrouver une course où... En fait, pour expliquer la grosse problématique, c'est que la moto, pour le groupe le premier groupe est toujours placé en avant du groupe et du coup, il y a un avantage aérodynamique. Alors que pour le second groupe, la moto est toujours placée en arrière, fait que les autres sont désavantagés. Ça fausse la course légèrement, probablement pas totalement et ensuite, mais c'est dommage. Je sais que en tout cas, il y avait, sur d'autres courses, ça a été encore pire. Probablement que Jeanne s'est fait voler un résultat, mais ça c'est juste pour la faire chier. Mais c'est ça. Si t'organises des courses, que t'es une institution comme World Triathlon, tu le sais, il y a des plaintes après les courses par les entraîneurs, par toutes. Faut faire quelque chose. Faut qu'il y ait un savoir qui se partage entre les courses pour pas qu'on répète les mêmes erreurs sans cesse avec des nouvelles équipes pour produire.
C'est
les
presque
courses.
Philosophique ce qu'il vient de dire. Ne répétez pas les mêmes erreurs.
Alors, on a vu donc une belle équipe de France avec Cassandre qui nous a fait encore forte impression chez les femmes en dominant un petit peu comme à Hambourg et là en mettant un petit coup d'accélérateur sur la partie course à pied. Moi, je le trouve comme on le disait tout à l'heure impressionnant sur ses formats sprint et super sprint d'ailleurs pour Hambourg et j'espère que ça va être pour elle un élément justement pour la rassurer et qu'au testament elle va nous montrer de belles choses.
Après qu'elle ait écouté le podcast elle sera remontée contre toi, elle va te prouver hein.
non mais je veux une victoire française hein, mais c'est juste que je l'attends sur ce format olympique parce que j'espère qu'elle va pas se brider.
Tu veux une histoire française, mais tu veux pas que ça soit Cassandre, c'est
si,
ça
si,
que tu
bien
dis
sûr, si, si, bien sûr. Bon, après, on a chacun nos petits favoris. Et moi, si je pouvais mettre les favorites, si je pouvais mettre Emma et Léonie, Emma en médaille d'or ou Léonie en médaille d'or, ou toi d'ailleurs, Jeanne, hein, pardon, me fais pas les gros yeux, voilà.
Wow.
Et puis, ouais, Cassandre aussi, mais ouais, allez, pour la jeunesse, j'aimerais bien Emma et Léonie aussi parce que
Léonie est plus vieille que Cassandre et Emma.
Oui non mais pour la jeunesse Emma et pour la sympathie
la
Léonie.
Vieillesse
et pour l'expérience on dit pour la sagesse.
Elle fêtait son anniversaire hier à l'heure où on enregistre donc je ne sais pas 31 juillet pour ceux qui ont oublié envoyez-lui un petit message.
Non mais je trouve faut quand même souligner aussi Emma Lombardi, c'est déjà la troisième fois qu'elle fait deuxième sur une WTCS, qui est quand même super balèze. Je pense que c'est elle qui aurait été la grande, en tout cas pour moi c'était la favorite pour la course. Je pensais pas que Cassandre allait être capable de suivre à vélo à ce point-là sur un parcours qui était difficile et tout. Moi, j'ai le sentiment que ça peut rouler plus fort à vélo que en ce moment on a
mais
une sorte de
Nîmes et des Flora et des Georgia et des Sophie
et de Kingma.
On a une petite
et des Kingma.
C'est ça. On a une petite. En fait, on a une petite période de flottement sur le circuit où on a des WTCS qui se répètent. Mais qui sont pas indicatrices du vrai niveau, en tout cas du meilleur niveau. Ce flottement-là, on l'a déjà vu chez les hommes avant Tokyo, ou parce que on a eu comme une période où il y avait pas de vrais leaders instaurés avec, tu sais, comme des scénarios déjà établis. Fait que c'est pour ça qu'on a besoin d'une confirmation et en fait la confirmation on va l'avoir au test event de Paris.
J'allais dire, je pense que cette année, ce qui est compliqué, c'est que dans les grandes nations, enfin en tout cas, en l'occurrence la France et la Grande-Bretagne, c'est que ils misent beaucoup sur le test event et ou la grande finale pour avoir leur qualification pour les Jeux. Et ça fait que t'as des choix de calendrier, comme quand on avait eu Léo la dernière fois qui disait que bon aussi parce que dans le classement général il y avait besoin de moins de courses que de courses organisées et que tu pouvais faire des impasses. Mais là en l'occurrence, je pense que ça soit la Grande-Bretagne ou les Français, c'est pas qu'ils en ont rien à carré du titre mondial, mais ça passe après en tout cas leur qualification en jeu. Et leur qualification en jeu, bon, ça peut entraîner un titre mondial parce qu'il faudrait faire un podium ou gagner le test event et faire un podium ou gagner la grande finale, donc forcément ça aide à être champion du monde à l'arrivée. Mais ils sont tellement focus là-dessus parce que les fédés entre guillemets les obligent dans le processus olympique que ça fait un peu ces moments de flottement, comme tu dis. On a vu là dernièrement, juste après Sunderland, La story, une story de Sophie Caudwell qui disait qu'en en gros, hein, je me rappelle pas exactement, mais qu'elle avait reçu, enfin il y avait pas mal de messages ou qu'elle avait reçu ou qu'elle avait lu sur les réseaux, j'imagine, parce que c'est très facile sur les réseaux de donner son avis sans forcément être très gentil et prendre un contexte derrière, mais qu'en l'occurrence que ce soit des Grande-Bretagne ou enfin des Britanniques ou d'autres gens avaient un peu allumé les Britanniques athlètes en disant mais pourquoi vous avez pas couru à Sunderland, c'est chez nous, ce que je comprends qui est très frustrant pour les spectateurs, hein. Mais elle a répondu déjà vous savez pas forcément, on a des objectifs déjà bah, par exemple Georgia est blessée actuellement, il y en a qui ont là et tous ils ont l'objectif de se qualifier au jeu en passant par le test event et la grande finale, du coup forcément il y a un moment donné faut t'entraîner pour être fort à ses courses, et là, quand t'as Sunderland deux ou trois semaines avant le test event, bah, ou ça peut être la dernière répétition générale, ou si avant t'as voulu faire Montréal, t'as voulu faire toutes ces courses. Genre, je prends mon exemple. Entre Yokohama et Montréal, je me suis quasiment pas entraînée, j'ai fait que du bricolage. Et là, c'est la première fois que je refais un peu d'entraînement, et il le fallait vraiment pour le test event. Et je pense, bon, il y en a, ils ont peut-être une marge par rapport à moi qui fait qu'ils peuvent tenir plus longtemps en faisant des courses. Mais à un moment donné, tu peux pas tout faire parce qu'il faut t'entraîner, quoi. Parce que ton niveau plancher, certes, tu l'as, mais maintenir un niveau de performance élevé sans t'entraîner, c'est, même si t'as bien bossé l'hiver, il y a un moment donné, faut se rentraîner un petit peu, quoi. Après, ça peut tenir, mais jusqu'à quand? Et surtout avec les années après.
Il y a un truc, moi ça m'a fait penser à ça, c'est que parce que c'est tout le monde le sait, là, je pense que la grande déception c'est de pas voir Alexis à Sunderland et tout. Et qu'est-ce qui est incroyable, c'est qu'en fait la fédération anglaise, elle utilise que deux dossards pour le Rio Paris Test Event. Ouais, je retourne en arrière, je suis nostalgique. Soit Alexis et Johnny Brownlee. Et en fait, là, on se dit que, mais c'est quoi de leur donner des critères de performance, etc. Parce que Alexis non sélectionné ou devant faire facile. Encore ses preuves face à la fédération, ça fait pas de sens, en fait.
Non, je savais qu'il dit ça.
Non, mais il y a un moment, tu sais, faut quand même être réaliste et tout.
Après, par contre, bon, autant au test event, ils n'envoient pas beaucoup de monde, autant on peut quand même souligner qu'à Sunderland, bon, est-ce que c'est parce que c'était chez eux? Je ne sais pas, on ne le saura jamais, mais ils ont quand même envoyé des, bon, pas forcément que des nouvelles têtes, donc il y avait Jack Willis qui était là, mais Max Tapley, ça a été sa première course WTCS, donc pour la Grande-Bretagne. Il a aussi fait le relais le lendemain, et ça, c'était acté même avant la course, donc ils avaient déjà prévu de faire un peu de roulement, et bah, on voit bien, Max, il serait resté à courir pour la France. C'est pas dit qu'un jour, il aurait eu un départ en WTCS. Et là, il sort sixième de l'eau, il est dans l'échappée. Tu t'imagines un truc avec un peu plus de densité, ça se trouve, l'échappée, elle tient. Et ça peut faire des belles choses, quoi. Ou du moins, à l'époque des domestiques, ça peut faire un domestique sympathique.
Et Bess Potter aussi. Bess Potter qui a fait le relais et qui est qui veut sa place pour les JO et qui a besoin, elle, de faire qui a besoin de faire sa place parce que devant, il y a Sophie Caldwell, enfin devant, avec elle, il y a Sophie Caldwell et Georgia Taylor-Brown.
Bah surtout qu'elle a fait, au final, si tu prends les résultats, bon, il n'y a pas eu 15 000 CD, mais si tu prends les résultats de CD cette année, donc, c'est-à-dire Yoko et Kagli, donc bah, les deux CD, c'est Georgia et Sophie qui les ont gagnés, enfin Sophie et Georgia dans l'ordre, et Kate Wolf qui a fait cinquième à Yokohama, alors que, entre guillemets, Bess ne fait que, donc c'est là les guillemets en fait qu'il fallait les mettre, ne fait que sixième à Cagliari. Donc sur le principe, elle est même quatrième actuellement sur distance olympique.
Ouais, donc bref. Ça c'est sur le papier. Après, je pense que ça va vraiment être la guerre pour avoir les places dans le relais. D'ailleurs, je sais pas si...
Vous... Ah, dans le relais et dans l'intime aussi, ouais. parce que Kate, elle a ses chances de passer, quoi. Alors peut-être pas cette année grâce au test event, hein, mais l'année prochaine avec je sais pas c'est quoi leurs critères, mais décisionnaire nanani.
Et on parlait justement là de la période de préparation et du rapprochement des courses, etc. Faut pas oublier non plus qu'il y a eu une année olympique de moins, enfin pré-olympique, avec les JO de Tokyo qui étaient en 2021 au lieu de 2020. Donc en fait on a un calendrier aussi qui a été écourté par rapport au standard des 4 ans et où il y a une année qui est un peu plus transitoire aussi.
That's true.
Allez, donc pour les femmes, Cassandre qui remporte la course devant Emma Lombardi qui arrive quand même à maintenir sa deuxième place devant Annika Kork et là encore une Allemande qui monte et on voit de plus en plus d'ailleurs cette jeunesse allemande qui se libère. ça commence à faire peur, hein, ces Allemandes-là.
Les Allemandes, c'est ouf parce qu'il y en a toujours. Genre, je pense qu'elles sont peut-être 8 et ça tourne entre elles, mais t'as Lena Meissner qui avait fait le gros hold-up du siècle en faisant 3e l'an dernier à la grande finale à Abu Dhabi. Là, elle sort quand même dans les 6. Voilà, je crois qu'elle a été un peu blessée peut-être à pied, du coup, elle a un peu plus de mal à pied en ce moment. Mais bon, t'as Laura qui est toujours, c'est la leader, quoi. Mais la Nika Kor qui nous fait 4e et la 3e, franchement, parce qu'elle est jeune, elle. Il me semble qu'elle avait gagné peut-être une Coupe du Monde ou fait un podium à Huatulco l'année dernière. Peut-être Alex... le sait, mais ouais, ils ont Nina Heim qui était pas en bourre. Bah, à Paris en tout cas ils vont avoir une armada, ça va être
intéressant de voir tout ça. Chez les hommes, donc la victoire de Pierre Lecor au sprint devant Léo Bergère et devant Eden Wild en 3e position. Ça faisait plaisir de voir ce sprint là. Ça a été assez intense d'ailleurs chez les hommes. Moi, c'est une course que j'ai appréciée, regarder surtout la fin, le sprint final. Et Aiden qui a craqué, ou alors on l'a vu couper un petit peu. Alors, est-ce que c'est un vrai craquage? Est-ce que c'est une blessure? Ou est-ce que... on va voir ça. On verra dans 2 semaines.
Bon, ça a parlé blessure, mais moi, je pense plus... De toute façon, il a mis un truc comme quoi il était un peu malade. Même, il devait pas faire le relais, mais vu qu'il y avait quelqu'un qui était encore plus
malade... Quand t'es blessé, tu vas pas le dire.
Pardon?
Quand t'es blessé durant une course, etc.,
non, ça m'étonnerait qu'il soit blessé quand même. Est-ce qu'il a déjà été blessé, lui? Parce qu'il y a des gens comme ça qui se blessent jamais.
De mémoire, non.
Mais en l'occurrence, il y a tellement de monde qui était malade, là, que ce soit avant, après la course. J'ai entendu qu'il y a un athlète pendant le briefing, il a dû partir du briefing pour aller vomir. Il a pris le départ de la course, il est sorti à Dash de l'eau, il a vécu un moment de solitaire ou DNS sur le vélo ou la paix, j'en sais rien, mais là ça a été l'hécatombe. Mais je pense que t'as au moins un tiers des athlètes qui ont fini malade sur le week-end.
Un aspect super important de la course,
la victoire de Pierre Lecor.
Non, justement, je reprends ma casquette de fan club de Léo Berger en fait. Mais en fait, je suis aussi dans le fan club de Pierre Lecor, juste pour rappeler, pour plein de raisons. Pour Léo, parce que ça m'a fait penser à l'entrevue qu'on a faite avec lui, qu'est-ce qui s'est passé durant l'année, ainsi de suite. T'sais, on était conscients qu'il fallait avoir une sorte de tactique commune pour essayer à battre Wide et Yi, etc. C'est clair que Léo, il a vraiment agi comme boss durant la course. Il a vraiment poussé le vélo et ainsi de suite. Tout ça pour dire, Wide, il est battable si vous donnez l'effort pour le battre. Et que en ce moment, on était un peu dans
le... Ou malade.
C'est autre chose. Ça, c'est une sorte de théorie, etc. Est-ce que il coupe l'effort parce que finalement, il sentait qu'il n'était pas capable? Parce que c'est quand même lui qui fait la première attaque sur le finish. Fait que si t'étais vraiment mal, tu le fais pas. Ou en tout cas, là, Léo, il a un travail à faire. Ils sont plusieurs. C'est vraiment démontrer à ce groupe-là qui est capable de partir en échappée après natation, c'est de plus collaborer parce qu'il n'en a pas eu beaucoup de collaboration. Et on peut s'inquiéter si un Vincent Louis revient pas, si un Martin Van Riel revient pas, etc.
Des infos.
S'il n'a pas de Schomburg, s'il n'a pas, il y a plein d'athlètes là. S'il n'a pas une sorte un entourage qui est généreux à vélo, etc., ça passera pas. Mais ils sont capables. Il faut arrêter de penser que Wild et Pi, ils peuvent pas être éliminés après la natation. C'est pas le cas. En tout cas, moi, je pense que cette course-là, elle fait énormément de bien aux Français et qu'elle leur permet de croire que non, on va pas aller aux Jeux Olympiques pour une 3e place, mais qu'on peut gagner, on peut aller chercher quelque chose. C'est juste qu'il faut se donner et que tout est pas joué.
Ouais, moi je suis super content pour Pierre aussi et pour Tom Richard aussi qu'il faut pas oublier avec la 7e place qu'il prend. Et tout à l'heure dans les résultats, j'ai pas cité non plus, donc Léonie Perriot qui prend la médaille en chocolat.
Ça a failli être un podium 100% français.
Ouais, petite chute a priori à pied, je l'ai pas vu à l'image.
Au bout de 100 mètres, elle a dit. Hein.
Ouais, mais
au tout début de la course à pied, elle serait tombée.
Mais c'est voilà, une petite pensée pour Tom Richard, 7e de la course, qui est un équipier modèle qui fait beaucoup de courses en ce moment, qui était à Hambourg aussi. Puisqu'on l'a pas cité d'ailleurs tout à l'heure dans Hambourg, et qui malheureusement n'a pas été retenu parmi les 10 000 dossards de disponibles de la FF3. Ils ont choisi de pas le mettre.
Mais peut-être pour la grande finale.
Mais peut-être pour la grande finale, il sera invité. Si jamais il y a un peu d'indulgence, peut-être, ou si jamais on nous modifie un petit peu les critères, comme on a pu voir dans une interview du sélectionneur Benjamin Maas, d'ailleurs, qui a donné une interview de la FF3 par la FF3 pour la FF3, dans laquelle il dit qu'il y avait 7 athlètes qui avaient réalisé les critères olympiques. Les critères pour le test event. Ah. Et alors que j'ai pas vu moi Vincent Louis faire les critères qui étaient mentionnés.
Non, en fait, il l'aurait fait la grande finale. C'était top.
Non, c'était Yoko. C'était résultat à Yokohama, résultat à Cagliari et résultat à Abu Dhabi 2022. Or Vincent Louis fait 4 à Abu Dhabi en 2023.
Il fait 4
En 2023.
Alors, 2023, c'est en ce moment.
Ouais, il fait 4.
Ah, sur Spring, tu veux dire, excuse-moi.
Ouais, mais ça faisait partie des étapes, en fait, dans lesquelles, voilà. Et il a terminé, il fallait terminer aussi dans les 5 sur la grande finale de 2022. Voilà. Mais sur la grande finale, il fait 7. Donc en fait, il n'a pas fait de critères, voilà. Mais bon, bref. C'était la petite aparté. Pensez à Tom Richard, messieurs dames de la
Ligue. Un plus, un de moins. Hein, on n'est pas à ça près.
Un de moins. On n'était pas à Valentin Morlaix aussi, Paul Jean Jourtout.
En fait, tu relances un autre débat qu'on peut déjà avoir, c'est que puis je sais qu'il y a énormément de personnes qui le pensent déjà que la sélection des athlètes pour les Jeux Olympiques de la FF3, elle est déjà faite depuis le début.
Quel est ton pronostic?
Ben, en fait, et c'est là que c'est ultra intéressant, d'où le soupir, je sais, mais c'est que Pierre Lecor, il est vu comme l'athlète numéro 4 et donc remplaçant. C'est un peu la roue de secours de luxe. Et en fait, c'est comme une surprise, sa victoire, elle vient un peu de remélanger toutes les cartes parce que. Il fait une course pleine, même s'il a 33 ans, je pense. Ben, il est capable de... Quoi? Non, mais tu sais, je pense que personne ne le voyait gagner encore une WTCS. Après Tokyo, on pensait qu'il allait voir ailleurs, en 70.3 ou je sais pas quoi. Tu sais, il a quand même été pas si présent en WTCS cette saison et toute la victoire... c'était une surprise. Après, on sait son talent. Moi, je me rappelle des belles années où il courait avec Gomez quand il paraissait imbattable. C'était à Gold Coast. En tout cas, il c'était un des premiers à commencer à truster les podiums en WTCS à une époque où c'était rare, en fait.
C'est l'époque où Gomez, pour être sur le podium, fallait y aller, quoi. Enfin, même pour être cinquième.
Et d'après ce qui se murmure, d'ailleurs, pour confirmer un petit peu ce que tu dis, c'est que sur le relais mixte qui sera présent sur le test event, Pierre Lecor n'est pas le remplaçant, c'est Vincent Louis.
Ah non, mais ça, on en avait déjà parlé, mais moi, ça m'a...
Voilà, avec Léo Bergère et Dorian Coninx, remplaçant Vincent Louis.
Ah, ça, c'est une question que le incroyable média de FF3 qui fait l'interview de Benjamin Maas, le donneur de drapeau, voulait poser, mais... Non, j'arrête.
C'est autorisé.
Attends, dernier point, parce que c'est super important. Je veux que le monde réalise que s'il n'y a pas top 8 lors du test event de Paris, la grande finale ne te qualifie pas, même si tu fais podium. Ce qui veut dire qu'il y a une très grande probabilité que tout, en tout cas, que certains choix soient discrétionnaires.
Alors, en fait, il faut rappeler à ceux qui nous écoutent qu'il y a 4 critères de rang pour être sélectionné pour les Jeux Olympiques. Et donc, en fonction du rang, ça donne de l'importance. Donc, le test event, il faut finir dans les 3 premiers du test event pour être de rang 1. Le rang 2, c'est dans le top 8 du test event et dans le top 3 de la grande finale. Et le troisième critère, c'est le sélectionneur après consultation et du comité de sélection à l'issue de 2023, blablabla. Et le rang 4, c'est encore le sélectionneur après analyse des résultats.
À la fin 2020, mai 2020.
Ouais, Et là, ça va devenir très compliqué parce qu'en fait, on aura des athlètes qui ont privilégié le test event et la grande finale et ainsi de suite, alors que tu aurais pu faire des résultats marquants en WTCS. Mais si tu as sauté WCTS pour pas, ou si tu as été blessé, etc.
C'est dur à dire, hein. Pendant les vacances, t'as pas bossé, hein, ton élocution.
Non,
hein.
J'ai pas bossé.
Les courses qui te permettaient d'aller faire le test event, c'était déjà des, parce qu'ils regardent surtout les distances olympiques et il y en a pas eu 15. Et pour le coup, ils en ont tous fait un ou l'autre, que ce soit Kagli ou Yoko. En l'occurrence, Léonie, à Yoko, elle n'était pas à Yoko. Et à Kagli, bon, ça ne s'est pas très bien passé, mais bon, elle avait bien réussi à... Et on sait qu'elle peut être très forte le jour J, parce que c'est quand même elle qui a fait cinquième au jeu.
Mais là, Jeanne, c'est là le génie de la FF3. C'est que chez les femmes, il y a trois places et trois candidates.
Oui, non,
et on va parler d'une sélection. Parce qu'en fait, on aura même pas laissé l'accès à des athlètes qui avaient leur dossard pour la WTCS de prendre le départ. Donc voilà, quoi.
Décidément, cette reprise, on a remis les points sur les îles.
Justement, on parlait de ces athlètes, de ce petit gratin d'athlètes de l'équipe de France qui sont maintenant sur les WTCS. Eh bien, il y avait aussi une course pour les jeunes pousses de la FF3. Avec les Europes de triathlon, les Youths, donc pour les jeunes. Et là encore, on a eu de beaux podiums avec des Français. Ça se passait à Bagnolès, en Espagne. Et donc, c'est à toi, Jeanne.
Ouais, alors pour rappeler juste, les Europe Youth, contrairement au championnat d'Europe junior, c'est vraiment pour, en gros, en France, ça fait minime 2, KD1, KD2. Donc c'est, pour cette année, c'est entre les athlètes nés entre 2006 et 2008. Donc c'est là qu'on a pu voir la Hongroise dont j'ai déjà parlé, Fanny Zalay, qui a remporté la course devant Lysen. Enfin, lycéenne, genre de ici, en fait, parce qu'à l'oral, je ne sais pas si ça s'entend bien. Mais Anne Grasset, qui finit deuxième, donc, et Léa Ward, je ne sais pas si on prononce le T, qui était tenante du titre, qui finit troisième. Donc, c'était un beau tir groupé de la France, et de la francophonie aussi, car donc, la quatrième, c'est une autre Française, Lisa Lecomte, qui suit ses compatriotes. Et ensuite, Linda Combard, vive le Luxembourg, qui est cinquième. Et une Suissesse, Anouk Dana, qui prend la sixième place. Chez les hommes, on continue les tirs groupés avec un autre titre pour Tristan Douche, qui avait déjà gagné l'an dernier à la Bowl. Second, un autre Français, Milan Larivière.
De la Réunion.
Et en troisième place, c'est un Belge, donc francophone, je ne sais pas, mais vu son nom, peut-être pas. Jens Smolder, je pense qu'on dit, qui complète donc le podium. Et on retrouve les Français Besson et Thévenard aux 6e et 11e place. Les Belges Canaert et Devos en 7e et 13e. Et enfin, les Suisses, bon, il y en a beaucoup, il y en a 4. Rivier, Widmer, Leimer et Goumi, j'adore ce nom de famille, 8, 9, 23 et 24e. Et petite blague, ils ont couru en paire, je crois. Ah 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 ah, parce que 8 et 9, 23, 24. Voilà, c'était tout pour moi.
Wow.
Et bien voilà. Merci pour cette intervention et ce point sur les courses. Moi, je voulais rajouter juste sur ce qu'on a pu voir en France, deux choses. La première, l'IOTA XP, la course organisée par Gaël Ménard qui se tenait à Vichy, où au commentaire, vous aviez Julien Pousson, Julien Paquet et aussi Aignon, donc qui était aux interviews. On a eu aussi Guillaume Claret qui a fait une petite piche sur le format XP, donc le format long. Une très belle course bien organisée, format aquathlon à Tours, avec élimination, un cut-off, etc. On vous laisse aller découvrir un petit peu ce format-là. C'était très bien organisé, beaucoup d'argent investi. D'ailleurs, 10 000 euros la victoire, franchement, c'est pas rien du tout, et en France, il n'y a aucune course qui offre un tel prize money pour les athlètes. Et ça faisait plaisir. Il y avait donc un affrontement entre des swimrunners, des triathlètes, des duathlètes. Tout l'environnement, en fait, du triathlon était convié pour voir qui était le plus fort sur des aquathlons, mais au format long, parce qu'au total, je crois que ça leur faisait 40 km de natation, 40 km de course à pied et
10 km de natation.
Ouais, ça fait quand même un peu beaucoup, ouais. Un petit peu, ouais. Donc voilà, c'était vraiment une très belle course. Moi, j'ai vraiment apprécié aller sur la IOTA. Et bravo à Gaël Ménard et à toute son équipe d'organisation. Et il se murmure que, ce format serait amené à se développer, et tant mieux s'il y a de l'argent pour les athlètes Et si ça peut amener de la visibilité au sport et que c'est bien organisé comme ça, feu. Ça se passait donc à Vichy. La deuxième chose, l'Alpe d'Huez Triathlon, une des plus belles courses aussi qui s'est, de France, qui s'est déroulée le week-end dernier. Alors, on va pas se mentir, il y avait un niveau qui était un peu moins élevé que sur certaines années. Mais il y avait quand même un petit peu de monde, une belle organisation où on avait pu voir pas mal de monde comme les Sœurs Merle qui sont souvent présentes là-bas et d'autres hein, comme Arnaud Guillou par exemple. On va pas faire tous les résultats de l'Alpe d'Huez, aller directement sur leur site ou sur la chaîne du triathlon pour voir les résultats. À noter juste le décès d'une participante sur la partie natation sur le format M, une Irlandaise, triathlète irlandaise qui a été secourue mais est réanimée mais transportée à l'hôpital de Grenoble. Elle est décédée le samedi. Donc... Allez, on a parlé de Sunderland. Et bien justement, on va accueillir Monsieur Sunderland. On peut l'appeler comme ça maintenant. L'Angleterre a parlé français le temps d'un week-end et c'est un peu grâce à lui. C'est grâce à Monsieur Pierre Lecor.
Le dossier de la semaine.
Et on accueille donc l'invité de la semaine, un invité, bon, Pousson n'est pas là, donc il m'en voudra pas, exceptionnel, Pierre Lecor, le vainqueur de la WTCS Sunderland. Salut Pierre, comment ça va?
Salut, ça va bien, et vous?
Bah, ça va très très bien, merci. Et puis pour cet invité, eh bien, on a aussi Mike Egros qui nous a rejoint. Il n'avait pas envie de faire tout le podcast, lui, donc voilà, il s'est autorisé de venir que pour l'invité, quoi. Salut Mike, ça va?
Salut tout le monde, bah ouais, quand t'as un vainqueur de Coupe du Monde, tu peux pas te permettre de le rater quand même.
De WTCS, monsieur, pas de Coupe du Monde, attends.
WTCS, pas pareil. Moi je suis à l'ancienne, désolé.
Ah oui, bah oui, il a gagné une, ouais, pardon, une... il a gagné une manche ITU alors, c'est bon, ça te parle mieux.
Parfait.
Alors Pierre, donc première victoire pour toi sur WTCS, ça te fait quoi alors de, si je peux me permettre, enfin gagner une WTCS?
Ah ouais, c'est ça, c'est vraiment le mot, c'est enfin. Bah, je suis hyper satisfait, hein. Franchement, j'y pensais même plus, en fait, de vouloir gagner des courses à ce niveau-là. C'est vrai que au niveau probabilité, je pensais avoir passé mes plus belles années. Et en fait, faut croire que plus je prends de l'âge et plus je deviens bon, donc on va continuer comme ça.
Et tu vois, t'en as de la graine à prendre, Mike. C'est pas fini pour toi, en fait.
T'as, c'est sympa, les gars, de me comparer. Mais non, non, bah, alors, moi, quand j'ai vu le résultat, quand j'ai vu ton sprint, c'est clair que j'ai tilté aussi par rapport, voilà, on dit tout le temps que quand on vieillit, on a de moins en moins d'explosivité, mais bah, ton sprint, il était digne d'école, et puis ça m'a fait vraiment plaisir de te voir à la gagne sur cette course.
Attends, Pierre, juste pour rappeler au monde, parce que là, tout le monde dit que t'es vieux, puis ensuite, t'as juste 33 ans. Faut pas non plus déconner, quoi. Il y a un moment, faut se calmer non, là-dessus, là, quoi. On est passé de genre, de l'âge d'or du triathlon, qui était 28 ans, à tout d'un coup, 33 ans, ça y est, tu serais fini, puis tu devrais être avec les vieux cassés en Ironman, ou là, le meilleur à 43 ans, ou 42, en tout cas.
Non, non, c'est vrai. Et puis, après, je pense que l'âge d'or du triathlon, au final, il a un peu évolué au fil du temps, parce que quand les Brownies sont arrivés, ils avaient 20 ans, ils gagnaient tout, et en fait, c'est quasiment les mêmes aujourd'hui, sauf que, voilà, il y a une nouvelle génération qui arrive, mais depuis seulement 2 ans, et c'est vrai que moi, je me suis retrouvé dans une génération où les gars, ils sont restés quasiment 10-12 ans au plus haut niveau.
Mais t'as pas justement l'impression que le système est en train de réclamer que les athlètes ont des carrières super courtes parce qu'il faut tout donner sur un laps de temps et tout? Parce qu'en fait, ça doit sûrement venir de là, le fait qu'on se questionne tout le temps si un athlète de 30 ans, il peut encore être sur le circuit.
Moi, je pense que c'est plus avec l'intensité et la motivation en fait que les athlètes ont, et surtout ce qu'ils font à l'entraînement. Je vois beaucoup de jeunes qui s'entraînent déjà des 40 heures quand ils ont 20 ans, et c'est sûr que voilà, leur corps à un moment donné, il va pas pouvoir continuer au-delà de 6-7 ans. Je pense que c'est en fonction de ce que tu fais à l'entraînement, de ce que tu fais à côté également, et puis la motivation. Donc après, c'est sûr que comme l'intensité, la densité du circuit, il est de plus en plus forte, ben ouais, ça peut effectivement raccourcir les carrières.
Alors, on t'a vu faire un petit passage sur Long après Tokyo. Et donc maintenant, c'est quoi un petit peu ton projet? Est-ce que t'es toujours dans une optique de projet olympique? On sait que tu seras au test event dans 2 semaines. Comment tu vois un petit peu toi la suite des choses pour toi? Parce que là, tu viens de gagner une WTCS, ça te relance vraiment, si je peux me permettre. Est-ce que t'avais vraiment arrêté? Mais ça te relance dans ta carrière courte, ou est-ce que tu vas basculer sur le long? Enfin, c'est quoi vraiment ton optique là d'ici 2-3 ans? Là
Ah ben moi je vais là où il y a de la lumière, hein. Donc non, globalement en fait, ce qui s'est passé, c'est que après Tokyo, donc ma non qualification aux Jeux Olympiques, je voulais vraiment faire ce qui me plaisait. Ouais. Et ouais, ma non sélection. Et du coup, je voulais profiter de mes envies et de cette liberté que j'avais. Enfin, même c'est moi je me suis imposé ma liberté, on va dire. Et donc du coup, ouais, j'ai voulu faire du long parce que ça me plaisait, et puis ça permettait de rebondir et de pas me relancer justement sur une prépa olympique, de pas me remettre la pression, parce que c'est quand même beaucoup de pression en fait, la préparation olympique, avec le stress des courses, le stress que nous imposent les fédérations, de toujours devoir être au top. Chaque résultat a été pied, etc. Donc j'en avais un petit peu marre, et voilà, je voulais me faire plaisir, et au final je trouve que c'était une bonne préparation que de faire au moins de l'Alpha Ironman pour le court distance. Après, c'est sûr que cette année je me focalise un peu plus sur le court distance, mais bon, je suis pas à l'abri ouais de faire un long en fin de saison, si ça me
dit. Et je rebondis, quand on a eu la chance d'avoir Léo aussi en interview, et il a aussi fait un passage sur le Alpha Ironman, et lui il avait dit que l'expérience qu'il en avait apprise pour le cours, c'était intéressant au niveau de la nutrition et tout ça, mais il y avait une phrase qui m'avait un peu choqué. Il avait dit écoute, je suis revenu sur des distances courtes, ou en tout cas plus courtes, il avait l'impression que c'était des journées plus faciles. Et toi, c'est quoi que t'en as retiré au fait de ce passage sur le demi Ironman et le un peu plus longue distance?
Moi je trouve au contraire que c'est beaucoup plus dense sur le court distance, et que c'est beaucoup plus difficile d'être à son pic et de pouvoir performer, parce que il y a une telle densité qui fait que c'est un peu la loterie. Sur le long, il n'y a pas vraiment de surprise, c'est à dire que moi, plus ou moins avant, à chaque fois que je me présente sur un long, je sais plus ou moins ce que je vais faire, ce que je vais pouvoir mettre en watts, quel sera mon niveau, alors que sur court distance c'est toujours un peu la surprise. Mais en tous les cas, ouais, c'est sûr que ça renforce musculairement, ça permet également de pouvoir être concentré beaucoup plus longtemps sur la distance. Donc c'est sûr que sur certains points, lorsqu'on revient sur court distance, il y a des aspects qui paraissent plus faciles, mais je trouve que c'est assez complémentaire en fait de pouvoir rallier les deux. Et ça reste de toute façon une discipline d'aéro, tout comme le court distance. Donc en fait, la filière à travailler reste la même, et ce qu'on nous demande, ça reste plus ou moins pareil. Après, voilà, il y a quelques pics en plus sur court distance, mais au final, quand on regarde en termes de watts et d'intensité à pied, on n'est pas très éloigné de ce qu'on peut faire sur court distance.
Quand tu nous as parlé là tout à l'heure de la non sélection pour Tokyo, là maintenant on arrive sur les sélections de Paris. T'es toujours dans le top 4 là actuellement, sur le test event vous serez 4 donc de présent, avec Vincent Louis, Léo Bergère et Dorian Coninx. Comment t'as évolué d'un point de vue mental? Est-ce que t'as évolué d'ailleurs? Est-ce que là tu parlais de stress, est-ce que t'es toujours aussi stressé qu'il y a quelques années à Tokyo? Comment tu vois justement cette sélection olympique? Quelle différence tu fais entre en 2019-2020 et maintenant?
Déjà je me sens jamais trop stressé hein, pour les courses de triathlon, quel que soit l'enjeu. Après, ma démarche, c'est vraiment de pas y penser. C'est-à-dire que j'essaie de faire les courses au jour le jour, d'arriver à chaque course avec de la fraîcheur. C'est vraiment plus ce que j'ai changé par rapport aux années précédentes, où en fait je faisais énormément de volume à l'entraînement. J'essayais juste de piquer sur, enfin de, on va dire de d'avoir des pics de performance minimum une fois, voire deux fois dans la saison. Et le reste du temps, j'arrivais souvent un peu fatigué, un peu cramé sur les courses. Là, au contraire, même depuis l'an passé, je me suis dit à chaque course sur lequel je vais me présenter, j'aurai un peu plus de fraîcheur. Et ça a l'air de plutôt pas mal marcher. Voilà, j'essaie de garder cette stratégie qui paye plutôt bien. Et puis après, franchement, je pense pas vraiment au jeu. Si je dois y aller, tant mieux. Si je vais pas, bah tant pis. De toute façon, j'y étais pas au dernier, donc il y aura d'autres courses à faire. Et franchement, maintenant les calendriers sont tellement denses que il y a le choix de faire autre chose. Après, c'est sûr que les Jeux, ça reste quand même et ça restera la plus belle course de 2024. Ça, il faut pas se leurrer.
Alors moi j'enchaîne sur une autre question. Alors je sais que dans ce groupe, tout le monde connaît toutes les spécialités d'entraîneurs d'entraînement, mais en Suisse, on suit peut-être un tout petit peu plus éloigné les structures des athlètes français. Donc dis-moi, toi, tu t'entraînes comment? T'es dans une structure, t'as un coach privé, t'es avec l'équipe nationale, comment ça se passe?
Non, moi, j'ai pas de... Enfin, si, je crée une structure depuis l'an passé avec Bertrand Billard et Glenn Marie. Donc Bertrand Billard que tout le monde connaît, qui a été double champion du monde de longue distance ITU, et Glenn qui est un ancien coach de natation et qui fait pas mal de triathlon au niveau amateur. Et voilà, on a créé une structure, une association pour notamment avoir des créneaux natation, puisque c'était vraiment le point qui était qui est un peu embêtant souvent pour les triathlètes, c'est de trouver des structures qui peuvent accueillir les triathlètes en natation. Et donc du coup Bertrand m'accompagne également en entraînement, on fait la composition de l'entraînement tous les deux, parce que après voilà, moi j'ai quand même mon expérience et j'ai quand même ma propre méthode d'entraînement inspirée par mes anciens entraîneurs que j'ai pu avoir, donc je voulais vraiment pas changer cette méthode là et voilà, c'est pour ça que je voulais quand même garder la main sur mon entraînement et Bertrand m'accompagne là-dessus.
Quand là tu viens de battre Eden Wild qui avait un peu une réputation de tout gagner là ces derniers temps avec Alexis aussi, d'être quasiment imbattable, est-ce que toi ça te booste ou est-ce que en fait, le résultat, enfin, tu t'en fiches un petit peu, c'est qui t'a battu, c'est juste la place qui est belle.
Non, c'est sûr que je suis ravi hein, de pouvoir battre Eden, surtout en course à pied. Après, voilà, je le trouvais quand même un peu moins fort que ce qu'il a pu être. Après, est-ce que c'est parce que j'étais bien et que je l'ai battu, j'en sais rien. Mais même en vélo, je le trouvais pas aussi incisif qui pouvait l'être sur les courses précédentes. Donc je pense qu'il était un peu fatigué, mais après voilà, c'est toujours du bonus hein, franchement de pouvoir montrer qu'on peut gagner, ça c'est sûr que ça met de la confiance et je pense qu'il faut arriver à surfer là-dessus et voilà, après avoir comment je rebondis de cette victoire, maintenant je pense avoir assez quand même d'expérience pour savoir que il faut rester humble hein, le triathlon un jour on peut gagner et puis la semaine suivante, on peut faire une cata sur les courses. Donc voilà, moi je suis content, j'ai gagné ma WTCS. Maintenant, si je peux récidiver, ça sera tant mieux. Et puis, sinon, tant pis. Hein.
Mais Pierre, tu sais, est-ce que à l'entraînement, t'as quand même des indices qui te disent que tu sais tes vitesses, elles sont bonnes, puis que tu sais, je veux dire, tu dois avoir des comparatifs en fonction des années. Et tu dois le savoir où t'en étais rendu quand même. T'étais pas dans une journée en grâce magique et ainsi de suite là. Tu es juste conscient que il y a quelque chose qui marche en ce moment et que tu peux jouer ta chance.
Ouais, effectivement, en fait, non, je le vois hein, à l'entraînement que notamment en ce moment en course à pied, je suis vraiment costaud, mais l'an passé je l'étais également. Après, c'est sûr que souvent je me retrouve plus ou moins au pied du podium sur toutes les courses que je fais. Après, l'an passé, avant Abu Dhabi, la grande finale, je pense j'avais le même niveau en course à pied que ce que j'ai actuellement. Mais je sais pas, quand j'ai posé le vélo à Abu Dhabi, après l'échappée, je pouvais même plus courir. Donc, finalement, voilà, j'ai beau savoir que je suis bien, des fois, je peux ne pas mettre en application réellement ce que je peux montrer à l'entraînement. Donc là-dessus, je reste assez humble en fait. Mais je sais que à l'entraînement, j'ai un des meilleurs niveaux que j'ai jamais eu et que il y a peu d'athlètes qui ont ce niveau-là et à l'entraînement, je pense.
Du coup, est-ce que c'est, je reviens sur l'affaire de l'âge, est-ce que ça t'énerve que le monde parle tout le temps de ton âge ou
Alors oui et non. Au départ, ça m'embêtait un petit peu, mais à la fois depuis que j'ai 25 ans, j'ai l'impression que voilà, on me rappelle que je suis vieux parce que notamment on avait Dorian et Léo qui étaient assez précoces. Donc voilà, j'ai toujours été plus vieux qu'eux. Et c'est vrai qu'en triathlon, notamment, on aime parier sur le potentiel et non pas sur l'instant présent. Donc c'est sûr que ça peut, on va dire, mettre des barrières. Après, maintenant, je pense m'en être détaché. Je pense également avoir fait ma petite crise de la trentaine, avoir remis un peu les choses en question et notamment en perspective sur ma carrière de triathlon. Mais maintenant, voilà, c'est vrai que je me rends compte qu'en fait, on peut être performant à tout âge. Et comme je disais tout à l'heure, tout dépend de notre passé et de ce qu'on a pu faire avant à l'entraînement. Parce que je vois des garçons à 30 ans, en fait, ils sont rincés. Mais parce que voilà, si on regarde leur plan d'entraînement, il y a rien d'étonnant. Et moi, je pense avoir eu toujours une construction plutôt progressive. Et d'ailleurs, je tiens à remercier mes entraîneurs. Hein. Peut-être que j'aurais pu être plus performant plus tôt, mais voilà, c'est ainsi que j'ai fait ma carrière. Et puis bah, maintenant, je pense encore avoir quelques belles cartes à jouer.
L'an passé, là, tu fais champion du monde longue distance. Tu es champion du monde aussi de relais mixte. Tu rêves de quoi, en fait, maintenant, toi ? Est-ce que tu as des rêves de triathlète ? Est-ce que Kona, ou Nice, d'ailleurs, c'est dur à dire, ça te fait rêver. Est-ce que toi tu t'ambitionnes d'aller vers le full ou est-ce que pas du tout, tu vas rester sur le half et puis ça te va très bien et pourquoi pas un titre de champion du monde ou peut-être que ça te fait pas du tout rêver et que toi c'est juste vivre ta passion.
T'as oublié la PTO.
Mais... Ah ouais, j'ai oublié PTO, pardon, et ou être champion du monde challenge aussi à Saint-Maurin.
Ou un futur circuit bientôt, en tout cas.
Ouais, ou peut-être.
Non, mais c'est sûr qu'il y a tellement de choses à faire en triathlon, ça en devient n'importe quoi presque. C'est ça en fait, c'est qu'on peut, on sait même plus où donner de la tête. Il y a tellement de choses à cocher. C'est presque un peu dommage et c'est pour ça que les Jeux Olympiques, je trouve que il y a encore ce truc-là qui est un peu au-dessus de tout en courte distance en tous les cas. Et je trouve ça bien en fait d'avoir entre guillemets une hiérarchie de courses à gagner. Après non, j'aimerais remporter des belles courses et puis ouais, faire l'Ironman, ça me plairait. Et surtout quand je vois le niveau qu'ont les Français là actuellement, ça donne envie et je pense que ça donne des idées. Mais après voilà, moi je suis très satisfait de ma carrière et si demain je devais arrêter, franchement, je serais quand même très content. Après, si je peux faire un Ironman et claquer une ou deux courses en plus, je me priverais pas.
Ouais, c'est vrai que pour ceux qui le savent pas, donc t'as été champion d'Europe aussi de triathlon, champion de France, champion du monde militaire, une victoire là sur WTCS, mais t'avais déjà plusieurs podiums sur WTS, et puis l'Ironman des Sables d'Olonne aussi, enfin le 73, et donc ouais, t'as déjà une carrière bien remplie, mais effectivement, on voit que les Français, comment tu vois un petit peu toi, comment t'expliques ces succès français dans le triathlon en général.
Pour moi vraiment c'est le tissu fédéral qui crée ce succès. C'est-à-dire que c'est les clubs, c'est les entraîneurs, c'est le Grand Prix notamment. Je trouve que le Grand Prix pour moi il a un facteur qui est plus important que ce qu'on croit, notamment pour les jeunes athlètes. En France, je vois moi, j'ai beaucoup de copains qui bénéficient de soutien financier grâce au Grand Prix. Et s'il n'y avait pas ce Grand Prix-là, ils ne pourraient même pas s'entraîner et continuer à faire du triathlon. Il faudrait qu'ils aillent travailler, parce qu'on va dire qu'ils n'ont pas le niveau international. Et en fait, depuis tout jeune, hein, les clubs à l'époque, moi quand j'étais jeune, à partir de 20 ans, ils te proposent un contrat financier et puis c'est parti. Et c'est les premiers à proposer ça, les clubs de division 1. Donc, et en plus de ça, tu as la chance 5 fois par an de côtoyer en fait les meilleurs. Donc tu as accès à une WTS entre guillemets à la maison et avec un petit peu moins de densité, mais par contre voilà, ça te permet de te jauger, de te mettre face à la réalité. Donc pour moi, c'est vraiment ça, c'est vraiment les clubs le côté associatif et puis le fait d'avoir un bon Grand Prix en France.
Moi, j'ai une question pour toi. En tout cas, si tu as écouté les derniers podcasts, etc., tu le sais. Comme
mais bien sûr, toujours... il les a tous écoutés.
Non, attends, mais tu sais, je considère toujours que Léo en tout cas, toi et Léo, vous faites partie de la catégorie des humbles, d'une certaine façon, et que d'une certaine manière, on vous respecte pas tant que ça. Dans le sens que, vu ton palmarès, l'accumulation, etc., comme genre, si je prends les résumés de WTCS, etc., ils parlent même plus de ta présence, finalement. Tu sais, t'as été l'athlète oublié. J'imagine que tu vas me dire que tu t'en fous. Mais en même temps, toi, t'es super conscient que t'as pas voulu créer ta légende, dans le sens que t'es pas ultra sur les médias sociaux et en train de proclamer des affaires, en train de mettre des bouteilles de bidons de pays, puis ainsi de suite. Est-ce que...
Non, c'est vrai. Hein. Franchement, c'est assez juste cette analyse-là. Après, je pense que ça dépend de la personnalité de chacun. Effectivement, hein, des fois, je pourrais me forcer, mais créer le débat, créer un peu... certaines personnes, d'ailleurs, recherchent ça. Hein. Les spectateurs, ils aiment ça. En tous les cas, ça peut créer une dualité. Et puis, je pense que ça amène, on va dire, plus de followers, plus de sponsors et... Mais moi, je me suis toujours dit, j'étais assez clair avec moi-même. En fait, je veux rester moi-même. Pour moi, le triathlon, c'est vraiment du dépassement personnel. Je cherche pas à être célèbre. Je cherche pas à gagner des millions d'euros. Je préfère le faire plus tard, en après carrière, s'il le faut. Mais en tous les cas, c'est moi, c'est vraiment me faire plaisir et avoir des bons résultats. J'ai pas cette utilité en fait de mettre en avant. Peut-être il y en a certains qui aiment ça, mais et je respecte. Hein, franchement, d'ailleurs moi ça des fois ça me fait rire et je suis un des premiers à regarder les shows qu'ils peuvent faire. Mais non, je pense que ouais, comme moi comme Léo. Je pense qu'on essaie plus d'être naturel et puis on est comme ça en fait.
Est-ce qu'on va te voir sur Super League ou pas là? Alors t'étais sur ta dernière, c'était quoi, Jersey ça, 2019 ou
en fait ils m'ont jamais recontacté. J'avais fait 3e au classement général en 2019.
Bah ouais.
Et bah après ça avait été une saison un petit peu alambiquée. En gros, il y avait eu deux étapes d'annulées à la fin. Mais ouais, je sais pas, ils m'ont jamais recontacté, puis voilà, moi je suis passé à autre chose.
Bah Jeanne, vous recrutez pas chez les t'es chez qui maintenant Jeanne, chez les Eagles, c'est ça?
Elle a pris tout l'argent, Jeanne, c'est fini, il y a
plus. Mais je pense que si tu leur envoies un message, ils seraient ravis de t'avoir. Après, ils ont beaucoup.
Non mais ils écoutent le trichot de toute façon, donc forcément.
Non, genre ils veulent la Super League, c'est plus de drama et de...
Ben, je pense que ça rejoint ce que disait clash, un petit peu Alex tout à l'heure, c'est que, alors peut-être pas chez les femmes, parce que tu vois, là, j'ai vu qu'il y avait Emma Lombardi par exemple avec toi, Jeanne. Je crois pas que ce soit la triathlète qui passe le plus de drama au sein
du. Chez les Eagles, on est plutôt des gens sans problème.
Mais effectivement, peut-être que des personnalités plus fortes, oui, sont demandées par Super League pour faire le show.
Ouais. Non, mais en fait, ils ont plusieurs stratégies, hein, Bah pour les athlètes, pour choisir les athlètes, c'est vraiment d'avoir un pool d'athlètes qui vient un peu de tous les pays pour justement pour le broadcast, pour pouvoir présenter les broadcasts à chacun des pays. Et puis nous en France, voilà, il y a quand même déjà Vincent, Léo, Dorian, je ne sais pas s'il le fait, mais ça fait déjà pas mal de monde, en fait, pour la France. Donc, ouais. Et puis voilà, je pense que je suis quand même moins, on va dire, bankable que.
Il y a Emma, Cassandre et Léonie.
Que eux. Donc, voilà, c'est la question, elle est vite trouvée.
Vite hein. Répondu. comment ça se passe au sein de l'équipe de France là? Il y a le test event qui arrive. Ça va être beaucoup de stress, je pense, pour les 7 athlètes qui seront présents. Comment ça se passe entre vous? Est-ce que vous avez des contacts entre vous ou pas du tout? Est-ce que toi tu as des contacts avec certains ou non?
Bah ça dépend des moments. Ouais, on est tous plus ou moins en contact. Hein. Franchement, ça se passe plutôt bien. Il y a une bonne ambiance. Là, on était à Fort-Romeu, on a pu se croiser lors des entraînements et puis etc. Après, ça dépend des périodes. Des fois, on est peut-être plus concentré sur l'entraînement, on n'a peut-être pas le temps de se côtoyer, mais en tous les cas, non, je dirais que l'ambiance elle est bonne et elle est assez saine. Hein. En tous les cas, lors de l'Olympiade précédente, c'était le cas. Après, peut-être parce que c'était moi qui étais la quatrième roue du tricycle, on va dire.
Du tricycle, voilà.
Mais après, ouais, si la roue devait changer, à voir comment ça se passerait. Mais en tous les cas, lorsque c'est moi qui suis un peu en retrait, ça se passe bien.
Et Léo, il t'en a pas voulu là que tu l'aies doublé sur la ligne là, il t'a rien dit.
Non, Léo, il était très content pour moi. Après, forcément, il était frustré de passer à côté de la victoire, mais c'était pas personnel et même moi, toi, j'étais là à lui dire je t'ai empêché de peut-être que ça peut jouer sur le classement final à la fin de l'année, mais bon, après ça reste la course et puis non, il faut pas se se faire des cadeaux, hein. Franchement, on est là pour être le plus performant et puis se battre, mais avec la bonne humeur, franchement, ça passe bien.
Et justement, là, pour aller jusqu'au test event, sans trahir les secrets d'entraînement à Bertrand, ça consiste à quoi? Parce que bah, là, t'es évidemment à un pic de forme, donc ça ressemble à quoi l'entraînement d'un professionnel qui est en forme ce week-end et qui doit aller maintenant jusqu'au test event avec évidemment les enjeux qui y sont, quoi.
Allez, ta journée du jour du 3 août.
Ouais, là j'ai une bonne journée, hein, mais donc pour rebondir, donc du coup sur la journée, on va la faire courte. J'ai nagé ce matin, donc c'était 5005 avec quasiment 5000 de série. Mais c'était du moyen, quoi. Après, on a fait une séance de VMA sur la piste, donc c'était 15 x 300. Cet après-midi, je roule tranquille et je recours, je fais un footing progressif. Donc c'est un footing au départ, mais à la fin, ce sera plus trop footing. Voilà, la journée, en gros, ça va faire, je sais pas, du 4-5 heures d'entraînement, mais avec pas mal d'intensité. Et ouais, c'est vrai que je me suis... Là, le fait de gagner, je me suis dit, ouais, peut-être que j'ai piqué un peu trop tôt. Est-ce que j'ai assez travaillé au final à Fort-Romeu? Parce que voilà, j'ai quand même pas mal récupéré là-haut avant Sunderland. Et c'est ça, hein, c'est toujours ce questionnement. C'est est-ce que au final, c'est pas trop tôt, quoi, parce que mon pic de forme, normalement, il est censé être pour la grande finale. Donc c'est pour ça que je remets un peu de volume là. Je remets un peu de volume, un peu d'intensité, justement pour. Parce que là, il reste 18 jours à tenir. Il faut pas que le pic passe et que je sois dans la descente. Donc voilà, je remets un peu d'intensité, mais on verra. De toute façon, puis bah après, pas de stress. Hein. Franchement, si ça passe pas, tant pis. Hein.
T'es pas tombé malade avec l'eau de Sunderland?
Alors franchement, j'ai pas fait la reconnaissance.
Déjà. C'est peut-être ça.
Donc, je pense qu'il y en a pas mal qui l'ont fait et qui sont tombés malades. Et puis, non, j'ai eu quand même pas mal de douleurs d'estomac entre l'individuel et le relais.
Donc, parce que les chiffres sont sortis, ils sont astronomiques.
Ouais, non, mais franchement, le soir de la course individuelle, voilà, je me suis dit, mais c'est sûr qu'elle était dégueulasse, là.
Et comment ça se passe là-dessus avec World Triathlon? Est-ce qu'il y a des plaintes? Est-ce que...
Moi, je ne sais pas. Mais en tous les cas, je pense que ça a dû être remonté par les athlètes et par les fédérations. Mais en tous les cas, moi, je trouve inadmissible qu'on le fasse courir dans des conditions comme ça. Par le passé, il y a eu des athlètes qui ont été très malades et qui le sont toujours aujourd'hui. Donc, moi, je suis pour la sécurité et la santé des athlètes avant tout. Après, par exemple, à Sunderland, là, ils nous ont fait faire un départ dans l'eau mi-cheville parce qu'il y avait trois cailloux dans le sable. Et je trouvais ça... Enfin, des fois, je trouve ça... voilà, ils ont des fois, ils ont des trucs qui sont un peu hors contexte. Et à la fois, les trucs les plus importants, bah, ils respectent pas, on va dire, l'intégrité des athlètes. Donc, ouais, j'ai du mal à comprendre, quoi, des fois.
De toute façon, ça vous prépare pour la scène.
Ouais, voilà, ouais, c'est ça. La scène est propre. Tout va bien à Paris. Merci.
Ouais, apparemment, ouais. Donc, ça va.
Là, tu nous as dit que ton pic de forme, tu voulais qu'il soit pour la grande finale, c'est ça? Tu parlais de...
Non, pardon, le test level.
Peut-être qu'ils veulent nous parler de sa non-sélection pour le relais, ou en tout cas, même pas
replacement. En fait, ils ont fait une sélection pour le relais, donc pour le test event. Donc, ce sera Léo et Dorian en relayeur, Vincent remplaçant, et moi remplaçant du remplaçant.
Il a au moins le droit d'être remplaçant du remplaçant.
Franchement, c'est, tu vois, moi, quand ils ont annoncé la sélection, j'ai mis 3 jours à m'en remettre, quoi. C'est-à-dire que j'étais surpris. J'étais surpris, en fait, déjà qu'il y ait une sélection parce que.
Et après les courses indives.
Ouais, pour moi, c'était écrit nulle part qu'il y avait des sélections pour notamment une épreuve comme ça. Et puis, en fait, ça soulignait bien, en fait, pour moi à cette époque-là le qu'ils avaient envie de voir pour les Jeux Olympiques.
Mais en même temps, vu que il y a quand même certaines probabilités que les choix soient discrétionnaires pour la sélection au JO, ça voudrait, c'est dès lors qu'il n'y a pas top 8 à Paris, ça veut dire que tous les résultats en WTCS deviennent importants parce que finalement
Oui, mais oui et non, parce que ça reste du discrétionnaire quand même.
Oui, je sais, mais c'est super difficile de se baser sur du discrétionnaire si c'est sur des résultats qui ont été faits il y a 2 ans, etc., versus quelqu'un qui a eu une victoire ou des podiums récemment en WTCS.
Ouais. Non, mais moi, c'est sûr que je suis pour des sélections, et je fais que le répéter hein, depuis ma non-sélection, mais même avant. D'ailleurs, je trouvais que c'était plus la politique de l'ancien DTN, Franck Bigné, c'est-à-dire d'avoir des critères qui puissent départager les athlètes. Dans ce cas-là, il y a plus rien à redire au final. C'est-à-dire que pour moi, si j'avais été sélectionneur, je mettrais par exemple test event grande finale. Je ferais un classement entre Français. Je sélectionnerais directement automatiquement les 2 meilleurs Français sur ce classement-là avec les 2 courses, quitte à faire une pondération entre les courses. Et puis après, pour le 3e dossard, je prendrais les 2 premières courses de la saison 2024. Une pondération entre ces 2 courses de 2024 et une autre avec le test event grande finale, et au moins voilà, les choses sont claires, sont écrites, et puis celui qui n'est pas sélectionné, il peut s'en prendre qu'à lui-même, et moi c'est ce que je préférais.
Et du coup là, t'es en train de me dire finalement qu'il y a eu un changement de politique entre Bignet et Maz, dans le sens que c'était pas, parce que tu sais, pour nous on voit ça comme le prolongement. Parce que ouais. Maz était déjà dans le système et...
Non, je pense qu'il y a eu un changement, hein, effectivement, où l'aspect discrétionnaire est plus important. Je pense qu'ils ont leur stratégie, hein, et je peux comprendre. Parce que eux, ils veulent des médailles et voilà, c'est très bien, mais ils se mettent ce qu'ils peuvent oublier là-dedans, c'est en fait la psychologie des athlètes, c'est que ils se ferment des portes au final, je pense. Et en plus de ça, ils peuvent se mettre à dos pas mal d'athlètes. Donc, je pense qu'en fait, c'est une stratégie où l'importance discrétionnaire est présente, ça marche à court terme, mais à long terme, en fait, je pense qu'il y a une perte d'athlètes et
de confiance aussi envers la fédération.
C'est ça.
Parce qu'ils sont pas si transparents que ça, en fait. C'est
tout le monde se dit déjà maintenant, alors qu'on est qu'en bon début août maintenant, mais que bah ils vont faire ce qu'ils veulent, quoi. Parce que la part du discrétionnaire a une place tellement importante que t'as l'impression, enfin, moi c'est plus mon cas du coup, hein, mais que tu te bats à moitié dans le vent parce qu'ils feront ce qu'ils veulent quoi qu'il arrive. Après, si tu gagnes le test event, tout va bien. Hein.
Non, mais c'est ça, il y a toujours une possibilité de sortir de ce truc-là.
Non, mais en tout cas, je veux défendre un tout petit peu Maz et ainsi de suite sur l'aspect du discrétionnaire. C'est qu'à une certaine époque, on l'a quand même déjà su. En tout cas, peut-être pas avec la Fédération française, mais il y avait des athlètes qui finissaient par obtenir leur sélection en sachant très bien que dans la course olympique, ça, je veux dire, ils avaient aucune chance. Tu sais, c'est les courses qui n'ont pas été assez sélectives sur les deux premiers sports, qui se sont rendus juste en course à pied, etc., qui ont un peu faussé les données. Et je pense que pendant des années, les fédérations ont eu super peur de se retrouver avec des athlètes qui étaient moins forts finalement, mais qui avaient obtenu leur sélection. Fait que si on peut partir sur le principe, le critère existait, ils ont réussi à avoir leur spot, c'est normal et tout. Fait que il y a une affaire de protection et tout. Là où la pensée, elle est vraiment devenue très conne avec le temps, c'est que en fait, maintenant, sur les WTCS, il y en a plus de courses non sélectives où ça a pas tant roulé et ainsi de suite. Il y a tout le temps quand même un gros niveau sur chaque course. Fait que, tu sais, moi, qu'est-ce qui m'énerve, et puis j'en ai tout le temps parlé, c'est que le système de World Triathlon, tu sais, point de vue attribution des dossards et ainsi de suite, il est super bien fait. Celui qui obtient son dossard pour la nation, finalement, ben, il est bon, tu sais, il n'y a pas d'erreur, là. Fait que c'est un peu ça. Finalement, tu sais, on essaye de protéger certaines athlètes qui vont être peut-être plus blessés ou qui ont eu des très hauts et bas. Ça devient un peu la course aux chouchous de la fédération. Puis moi, je trouve ça un peu dommage, quoi. Mais le système, il est compréhensible aussi.
Après, c'est aussi un peu le problème de riche quand t'as plein d'athlètes très performants dans la fédération.
C'est ça. Et qu'est-ce qui est drôle, c'est quand la fédération anglaise agit toujours comme ça avec les hommes, alors qu'en fait, ils ont juste deux athlètes. Et là, tu te dis que...
Mais d'ailleurs, j'en ai parlé avec Kate tout à l'heure à table et c'est pas qu'ils veulent pas emmener d'anglais, enfin britannique au test event, c'est juste qu'ils sont sur waiting list parce que ils ont pas assez de points pour passer sur la course. Ils sont genre, il y en a un, il est troisième sur waiting list, l'autre sixième. Donc ils sont inscrits, c'est juste qu'ils sont pas passés puisque pour le coup, ils les ont peut-être un peu trop mis sur WTCS où ils n'ont pas réussi à prendre de points, au lieu d'aller prendre quelques points en fin d'année dernière, par exemple, en Asie, en Amérique du Sud, ou à la Huatulco, whatever.
Ouais, là, ça veut dire que c'est des mauvais calculs.
C'est ça, bah, comme il y avait eu un très mauvais calcul en 2019-2020 pour les filles à Tokyo, où les Françaises n'ont eu que deux dossards, alors que je pense que le potentiel permettait d'en avoir trois. Mais bon, on ne refera pas l'histoire.
Alors, as-tu des choses à rajouter, mon cher Pierre ?
Non, là-dessus, je crois qu'on a fait le tour. En tous les cas, voilà, c'était sympa de m'accueillir aujourd'hui. Merci.
Bah, félicitations à toi. Un grand bravo. Je crois que tout le monde, toute l'équipe, là, te félicite et on espère vraiment le meilleur pour toi sur le test event. Et on se voit normalement à Paris. Et je t'ai entendu là dans l'interview, là t'as dit tu pourras sortir le soir mais pas trop tard, t'inquiète, je m'occupe de toi. T'inquiète pas. On prévoit les sorties, c'est bon.
Regarde, il va sortir et après on va l'appeler pour dire qu'il doit faire le relais parce que il y a trois autres athlètes qui sont malades à cause de la salle.
Ouais. Et c'est vrai que les deux fois où j'ai fait le triathlon à l'époque, hein, je suis tombé malade quand j'étais au pied de la Tour Eiffel et je serais étonné quand même que l'eau soit à ce point-là propre, mais bon, a priori, elle est mieux que dans ma baignoire.
Allez, merci beaucoup. On va te libérer parce que tu as encore des entraînements aujourd'hui. Un grand merci à Pierre Lecor, donc champion du monde 2022 longue distance, champion du monde relais mixte 2022 et vainqueur de la WTCS Sunderland le week-end dernier. Bravo Pierre. À plus.
Ciao, merci.
On s'en fout pas, ça va aller vite aujourd'hui, hein. On est en effectif un peu réduit du fait des vacances, donc ça va aller un petit peu plus vite. Bah, c'est simple, vous me dites si vous en foutez ou pas. On commence tout de suite avec le record du monde d'Ironman, de distance Ironman battu par Sean Conway au Pays de Galles. Il s'était donné comme objectif 102 Ironman consécutifs, donc chaque jour un Ironman, enfin une distance Ironman, puisque les règles sont un peu différentes, eh bien, elle en a fait 105, donc objectif atteint.
Je m'en fiche.
Moi, je m'en fous pas qu'il en a fait 3 de plus, parce que le gars, il était plus capable d'arrêter. En tout cas, courage à sa famille qu'il a abandonné, courage à son travail, à tout. Non, mais je sais pas dans quel état tu ressors de ça en plus, en fait.
Ça, je pense que c'est dangereux pour toi, quoi. Ah, c'est...
Alors, il faut rappeler, hein, les règles sont différentes. Il a le droit au drafting, il a le droit à de l'assistance.
Voilà, enfin, je pense qu'il a pris 10 ans parce que quand tu voyais son visage à chaque course, il respirait pas la forme.
En le tout sport, cas, c'est bravo. Bien, mais pas non plus trop haute dose.
La disparition d'Ironman Mont-Tremblant après 10 ans d'existence, on en a parlé dans les actus. On s'en fout pas.
Bah du coup ça par contre je trouve ça un petit peu triste. Après moi je suis pas touchée directement mais je pense aux petits Canadiens québécois.
Moi je m'en fous pas, pense que j'ai déjà fait la course mais on faudrait connaître les vraies raisons. Je sais qu'il y a beaucoup moins d'inscriptions et tout. En tout cas, on en a parlé durant l'actu et tout. C'est un peu difficile pour une communauté. Je parle du triathlon québécois, etc. Parce que tu as besoin de ces gros événements-là, justement, pour garder sa place dans le sport, avoir attirer des nouvelles personnes et tout. Oui, on a toujours le 70.3, mais ça reste très tôt durant le début de l'été. Je sais pas, je trouve ça dommage.
La Norvège qui monte sur le podium du relais WTCS censé star entre guillemets, parce qu'il y en avait quand même quelques-unes, mais voilà, pas ceux qu'on a eu l'habitude de voir.
Bah, censé star, tu veux juste dire voilà, c'est une question.
Et Eden, mais Eden, on sait maintenant qu'il sera plus sur.
Après, en ce moment, c'est pas une star.
Voilà,
sur
exactement. Alors la Norvège qui monte sur son premier podium au relais WTCS. Et donc, je crois qu'il va chercher sa qualif.
C'est plutôt cool. Ils avaient déjà gagné les Jeux européens. Avec un niveau moindre. Donc voilà. Mais là, alors certes, c'était aussi un niveau moindre par rapport au championnat du monde, même si là, la France était présente. Mais, déjà, eux, c'est cool. Ils prennent leurs points. Ils font des tests. Ils s'imposent un peu. Moi, j'étais un peu surprise. Enfin, j'étais surprise sans être surprise de les voir. Mais, c'est une bonne chose pour eux. C'est cool.
En fait, on s'en fout pas du tout parce que ça démontre que c'est pas une fédération de juste 2 athlètes et qu'il y a une sorte de savoir-faire. Étonnamment, c'est pas avec le même entraîneur, c'est pas avec des choses. Il y a une sorte de confrontation de toute façon et de guerre interne dans l'entourage norvégien. Mais ça leur donne un peu aussi raison sur certains choix qu'ils ont fait récemment en écartant Eden. Même si c'est difficile et tout.
Après là, ça reste une course, un relais, faut pas.
Ouais, mais ça reste le résultat d'un ensemble et ça démontre la réussite d'un système. On va pas dire la réussite, mais l'évolution dans le sens qu'ils sont toujours en train de s'améliorer.
Après des garçons, même sans Christian et de toute façon on le voit avec leur 3e place, mais. Mais Casper, il a déjà gagné ou fait un podium aux Bermudes après avoir fait une échappée.
Ouais, il a gagné. Alors, certes,
c'est parce qu'on l'avait laissé partir, parce qu'on le connaissait pas. Enfin, moi, j'étais pas là, mais les garçons l'ont un peu laissé en mode, bon, il fait son truc et il s'attendait pas à ce qu'il gagne. Mais ça reste qu'il y a des potentiels. Sveltelthorn, je sais pas trop comment on prononce, pareil, il a déjà fait quand même des vraies belles choses. Donc, c'est pas comme si ils ont écarté Gustave et d'un coup, bam, on découvre des nouvelles têtes. Non, c'est des gens qui sont déjà là depuis un moment, qui font leur petit bout de chemin, qui prennent leur expérience en courant.
Je crois que vous avez oublié un petit peu les règles, hein, du on s'en fout pas. Hein. Souvent, normalement, on développe pas.
Ah, mais là, c'est la rentrée, ouais, c'est la rentrée.
Allez, on enchaîne avec Gwen Jorgensen.
Parce que Pousson est pas là.
Alors, Gwen Jorgensen, qui signe le 2e temps à pied de la WTCS Sunderland, ne termine qu'à la 24e place. Donc, est-ce que c'est la fin du rêve pour Gwen? On s'en fout pas.
Bah, disons que c'est pas une grosse surprise, parce que 24e, on peut se dire, ça reste pas trop mal. Après, c'était une course où il y avait beaucoup d'ouverture. Moi, pour rigoler, je m'étais dit, elle va peut-être faire un podium, sait-on jamais. Bon, en l'occurrence, non. Mais vu qu'elle a fait le deuxième temps à pied, elle aurait été devant, elle aurait pu. Hein, mais je pense bah ça va être dur là. Elle avait l'opportunité parce qu'en plus il y a pas mal d'Américaines qui ont zappé la course. Ouais, je pense que je sais pas si elle y croyait vraiment au jeu, mais je pense que ça va être quand même très 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 compliqué pour les jeux. Je sais pas si elle a fait partie du relais lendemain.
Elle était dans le relais.
Avec Erika.
Oui.
Ils ont fait
quoi ? Ils font 8, ouais.
Ils font loin, ils font 8e, je crois. Moi, je vais démontrer que j'ai changé. Je vais dire que je m'en fous parce que. Parce que ça y est. Le projet Gwen Jorgensen, il est mort. C'est beau. Je veux dire, faut être réaliste. Elle n'est pas capable à vélo, elle n'est plus capable de suivre en natation. Elle fait une 24e place en sortant tellement loin après les deux premiers sports. Je veux dire, t'es plus. Puis ils sont assez armés les Américaines pour les Jeux Olympiques et tout. Par contre, qu'est-ce que je m'en fous pas, c'est la polémique qu'elle a créée à cause de ses poches de lait maternel, parce qu'elle voulait prendre l'avion et à la sécurité. Ils lui ont demandé c'est quoi ça. Elle a dit ben c'est du mon lait maternel. Et là ils lui ont dit mais où est le bébé. Et là elle s'est indignée. Ils ont appelé la police et ainsi de suite. Et elle a voulu se faire justice en faisant.
Ça n'a pas plu.
Non, ça m'a pas plu parce que il y a des fois j'aime pas ça quand les athlètes ils utilisent leur statut etc pour essayer de te faire justice. En tout cas c'est après moi j'aime bien Gwen mais là t'as des.
Alors on s'en fout pas de ce dont il vient de nous parler Alex.
Moi, je m'en fous du lait maternel de Gwen Jorgensen et j'espère qu'elle a pu voyager avec le lait maternel comme elle a pu et au même titre que les autres. Voilà. On enchaîne tout de suite. Non, je sais pas. Eh bien, merci pour le. On s'en fout. On s'en fout pas et on va basculer tout de suite au débat en bois.
1, 2, 3. Le débat en bois.
Le débat en bois, alors, est-ce que le format super sprint avec des manches de qualif, d'élimination, etc., que vous avez pu voir sur Hambourg, doit-il devenir le format des Jeux Olympiques? Alors, à ton avis, Alex, est-ce que pour toi, c'est le bon format?
Je suis un peu suisse, en fait. Je vais dire oui et non, parce que il doit être, selon moi, une addition. Je vais être radical, je vais le dire. Il est temps de tuer la distance sprint une fois pour toutes. J'adore le super sprint. C'est génial comme formule. Puis, selon moi, c'est aussi plus proche de l'Olympique que du sprint, dans le sens que ça te demande pas par la distance, je suis pas idiot, en tout cas, mais c'est que l'accumulation et la gestion de l'effort, je veux dire avec toutes les manches, au final, c'était très proche de l'effort d'un olympique.
Ouais, mais là on parle de l'olympique, ouais, tu nous parles du sprint, mais là on parle de l'olympique, donc tu voudrais supprimer le distance olympique pour passer sur des manches, c'est ça?
Non.
Non, je crois qu'il veut faire un distance olympique et du...
Par exemple, tu nous verrais bien à Los Angeles, un format olympique et un format éliminateur.
Ouais, et moi, je veux que la WTS... Moi, je suis pour que la WTS arrête le format sprint. Ça y est, c'est beau. Il dégage. Parce qu'en plus, il y a la connerie des points, ce qui est super énervant. Et les athlètes qui veulent pas aller faire la course parce que y a 250 points en moins, ça c'est énervant, sérieux, c'est quand même une victoire, c'est une victoire, c'est comme faut arrêter ça. Puis tu sais, il faut que le suiveur il comprenne, qu'il fasse pas comme toi à se dire ah mais cette athlète là elle gagne que les sprints et jamais les olympiques, c'était trop complexe.
Pourquoi on supprimerait pas le format olympique pour mettre un format 100 km par exemple plutôt?
Ah, Berk.
parce que c'est tout. Là, il se rapproche trop, tu vois. Ça veut dire que moi j'aime bien. Personnellement, je trouve que c'est bien le format Hambourg. L'avoir au JO, je sais pas.
Non, mais justement, c'est parfait.
Moi, en tout cas, d'un côté, j'aimerais, mais d'un côté, je trouve ça mais tellement stressant. Genre, franchement, avant, je sais plus, c'était avant la finale ou la qualif. Je pense j'avais d'autres raisons hormonales, mais je pleurais de stress. Parce que j'avais trop peur de pas passer, quoi. Et ça, sur un, tu vas stresser sur d'autres courses, mais je trouve que sur le format là, c'est tellement horrible de te dire, ça se trouve,
après,
je pense.
C'est ce qu'on avait, c'est ce qu'on a sur le format horrible. De l'athlète. Par exemple, sur le 100 mètres, 200, 400.
C'est tout à fait vrai. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que je ne fais pas d'athlète. En plus du fait que j'aurais peut-être pas le niveau. Mais
attends, je veux démontrer que je suis intelligent des fois. Pour votre information.
Alors, il aura fallu attendre l'épisode 19, mesdames et messieurs.
Ok,
c'est à toi, Alex.
Grande nouvelle, parce que personne ne s'en rend compte, etc. Mais lors des JO de 2024 à Paris, en athlétisme, il y aura désormais des séances de rattrapage. Dans le sens que oui, il y a des vagues qualificatives, etc. Mais si tu te plantes, va y avoir une manche de rattrapage, exactement comme en triathlon, finalement, parce que si tu passes pas la première étape, tu as le droit à l'étape en plus de rattrapage. Fait que ça veut dire que cette formule-là, elle est déjà pensée pour les Jeux Olympiques parce qu'ils ont récupéré le même système qu'en athlétisme et tout. En tout cas, ça fonctionne. Le spectacle est génial. Quoi?
Pour laisser une deuxième chance.
Par exemple.
Oui, c'est ça. Oui, mais après, c'est juste pour la médaille de bronze.
De bronze, oui.
Parce qu'on en a vu, Jeanne, je suis sûr que tu te rappelles de ça, mais on en a vu pas mal quand même d'athlètes qui ont pas passé la première manche puis qui se sont rendus en finale à la fin. Ça existe. Après, ils sont fatigués.
Est-ce qu'on verra peut-être pas plus un format genre ce que proposait Super League avant avec les mixtes, etc. Tu sais, il
y a... Ah, genre
ouais, ou mixer,
triple mix.
C'est un peu trop dur à comprendre pour les gens avec le vélo qui passait en premier et puis après, t'avais un départ en poursuite.
Ouais.
Ah, Jeanne, elle peut plus dire de mal de Super League de toute façon.
Est-ce que ça va pas servir? Je trouve ça sympa sur la Super League, mais je sais pas si ça a sa
est-ce place. Est-ce que ça va pas servir les intérêts de Super League, justement, de se poser cette question et que WTCS, que World Triathlon propose ce genre de
format? Non, mais je veux dire, déjà, si on passe sur Eliminator, c'est déjà un petit step up dans la modernité, on va dire, pas besoin de commencer à mixer. Là, la Super League, c'est le côté un peu funky, jeu, on va dire, et c'est très bien comme ça, et à un moment donné, restons dans notre
l'arrivée de l'éliminateur, elle est quand même poussée par la Super League, indirectement. C'est parce que World Triathlon,
ils ont donné la visibilité de ouf à ce format, en tout cas. Et ils ont montré que les gens aimaient.
C'est pas un format qui est nouveau, hein. On parle de modernité, mais c'est un format qui existait déjà il y a longtemps.
Oui, mais ils l'ont remodernisé, eux, en tout cas. Mais disons qu'en fait, ils ont mis la petite touche moderne qui a fait que maintenant, le Eliminator passe en World 3 et est accepté par World 3, alors qu'il n'aurait peut-être pas été sans eux.
Après, on est peut-être un peu naïf parce que ce que Julien voulait dire, c'était que le format de la Super League existait déjà en Australie il y a une vingtaine d'années. Et le format Eliminator, en fait, si tu regardes vraiment, c'est un copier-coller de qu'est-ce qui se fait en ski de fond. Et je sais que... World Triathlon.
Ouais, après, tout le monde s'inspire de tout.
Ouais, c'est ça, mais World Triathlon, ils sont super conscients du succès incroyable qu'a le ski de fond, et qu'ils peuvent se questionner pourquoi, si le ski de fond réussit, pourquoi le triathlon ne devrait pas réussir, parce que on est dans le même contexte, circuit, le public,
oui,
peut
il y avait
voir
le
tout, et ainsi de suite.
Je pensais au triathlon indoor de Bordeaux, par exemple, en 83, ou des choses comme ça, ou qui étaient avec des formats à manches, etc. Donc, c'est des choses qui peuvent se faire aussi, et qui existaient déjà. En attendant, on verra ce que va proposer World Triathlon. Je pense qu'il va y avoir beaucoup de changements à venir. Effectivement, le format Super Sprint, là, c'était un débat en bois où on était plutôt tous d'accord, où le format Super Sprint a vraiment convaincu sur Hambourg et pourrait être l'avenir. Alors, est-ce que ça signifie la mort du format olympique ou en parallèle de cette épreuve, comment va se placer PTO dans le futur avec le World Triathlon, etc.
Pourquoi tu nous parles de PTO, toi,
pour le longue distance, il nous faut du longue distance un petit peu.
On s'en fout du longue distance.
Il reste de leur côté, pas besoin
et
de tout mélanger.
Et d'ailleurs, en parlant de PTO, ça nous fait une excellente transition vu qu'on va passer à ce qu'on va regarder la semaine prochaine, le week-end prochain, le week-end qui arrive. Allez, alors le week-end prochain, il va y avoir surtout pour moi, il y aura deux courses à suivre. Ça va être la PTO Milwaukee, donc aux États-Unis, et le championnat d'Europe 73 qui va se dérouler à Tallinn. Alors, est-ce que vous allez suivre ça ou pas du tout?
Moi, je suis les Europes parce que parce qu'il y a Kaidi de mon groupe, l'estonienne, qui courra à la maison. Donc, j'espère qu'elle va faire bien.
Moi, je dirais que par nature, par définition, partout, en fait, il y a juste PTO Milwaukee qui va m'intéresser parce que à la base, les meilleurs athlètes, ils savaient que c'était leur rendez-vous. Les autres courses, ça reste des courses secondaires. Il y a déjà trop de courses durant l'année, fait que voilà. Je vais d'ailleurs. Fait important, deuxième aspect intelligent de l'épisode que je vais dire, je tiens à rappeler que la course des hommes, c'est le vendredi. Et du coup, faut pas la louper.
Oui, il y aura aussi la course des femmes, bien sûr, à regarder. Alors, pour revenir sur les championnats d'Europe de Tallinn, il y aura effectivement Alexia Bailly chez les femmes et Aurélia Boulanger. Normalement, enfin, en tant que Française, on aura normalement Lisa Norden, Lucy Hall, Amelia Watkinson, Sarah Perez-Sala, et chez les hommes, on aura normalement Anthony Kos, Simon Vien, William Menson, Yvan Jarige, Erwan Jacobi et Nathan Gerber au départ, avec les autres, Mike Phillips par exemple, Peter Emmerich ou encore Antonio Benito Lopez, Jan Stratmann ou Jesper Svensson, le Suédois, PTO, Milwaukee, on devrait voir Blumenfeld, mais on aura Magnus Ditlev, Sam Long, Ben Canute, Daniel Backegaard, Iron Roll, mais surtout Clément Mignon pour les hommes. Et chez les femmes, on aura Marjolaine Pierret, qui représentera donc la France, et là encore plein de favorites au départ.
En tout cas, moi, j'aimerais vraiment voir une victoire de Yann Frodeno, mais c'est mon souhait, j'ai commandé ça à Noël.
Ouais, c'est vrai, il y aura Yann Frodeno, il y a le Lionel Sanders qui est souvent mis en avance, et on a surtout oublié quelqu'un d'autre, parce qu'il y a un deuxième Français qui est présent, et je pense qu'on se serait fait taper sur les doigts.
Bah ouais, mais Pousson n'est pas là.
Certain Matisse.
Ah, Matisse Margirier.
Ben oui, voilà. Chez les femmes, Ashley Gentle, Paula Finlay, Taylor Nib, Holly Lawrence, Tamara Jewett, Kat Matthews, Kai Munch, etc. Voilà, donc ce qui va être super intéressant.
Et sinon, il y a aussi les Europe Super Sprint, parce que vous parlez que de long, là, à Balquhessir. Non, moi, il y a Cecilia Santa Maria qui court, et il y a des Français. Yannis Seguin, qui était engagé, ne l'est plus, il me semble, parce qu'il s'est fêlé les côtes. Parce que je l'ai vu faire genre 220 bornes de vélo la semaine dernière, je lui ai dit, mais... Es-tu bien sûr que ce soit une bonne préparation juste avant tes championnats d'Europe? Et il m'a dit, côte fêlée, je ne les fais plus. Donc, info, intox, je ne sais pas, on verra. Mais en tout cas, il y a les Europes. Il y a Briac Tens, je crois, en U23.
Audrey Meller chez les élites femmes, Mathilde Gauthier chez les élites femmes. Donc, on avait Baptiste Passemard aussi. Donc, Nora Baptiste Passemard et Briac Tens chez les U23. Et Anouk Sterkers et Candice Denizo, donc à Balquhessir en Turquie. Et donc ça, c'est le 4 août pour les U23. En junior, on aura donc Nils Sergeri, Pablo Isoton, Gaspar Taro, Thomas Hansmanel. Pour les femmes, donc on aura également du côté des Françaises, Ilona Hadoum, Manon Laporte et Léonie Doucher. Voilà, donc en gros l'équipe de France des mondes qui sera présente pour les juniors, avec aussi des relais mixtes, etc. Donc beaucoup d'expérience à prendre. Allez, merci beaucoup de nous avoir écoutés pour cet épisode 19 du Trichot. On vous souhaite une bonne écoute, une bonne semaine, et on se retrouve donc la semaine prochaine pour l'épisode 20. À bientôt et merci.
Au revoir.
Bye.